Voilà, nous accueillons quand même trois professionnels. Alors, ce n'est pas trois journalistes, mais une journaliste, Madame Frouster, qui a donc le droit en tant que telle de participer et de transcrire nos discussions. Et puis, je profite de ce conseil municipal pour vous présenter Isabelle Donia, qui va s'approcher, parce qu'elle est trop loin, qui est donc la nouvelle chargée de comptabilité à la commune, que un certain nombre d'entre vous connaissent, puisqu'elle a déjà travaillé à la commune, un peu à tous les étages. Donc elle connaît bien tout le monde, elle connaît bien un certain nombre de missions, notamment les missions que fait Sandra, les élections, le CCAS, l'accueil, enfin bon, les services, les DRH, enfin les ressources humaines, et puis la comptabilité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, vous présentez. C'est vrai que c'est un défi. Merci beaucoup. Merci. On est très contents de vous accueillir à nous. Je vais en profiter parce que à côté d'elle, il y a donc Gisèle Chambonnet, que, alors elle, on ne la présente plus du tout à personne. Qui travaille à la commune de Diolfi depuis 1979, 41 ans, et qui est venue pour assister au dernier conseil municipal de sa carrière. Donc voilà, je vais qu'on l'applaudisse. Et oui, elle veut parler. Gisèle, un petit mot.
Je suis pas encore partie. Je suis encore un peu là. Après, je suis en congé. Je suis à la retraite le 1er janvier.
Enfin, j'ai compris quand même que les jours sont comptés quand même. Hein. Quand est-ce que c'est le dernier jour? C'est vendredi là? De toute façon, on ne bouge pas, le bureau est toujours ouvert et on est très accueillants. Enfin, en tout cas, un grand merci pour tout ce que vous avez fait, puisqu'il faut qu'on se vous voie en public, pour pendant ces longues années. Je ne sais pas combien de maires vous avez vu passer, combien de DGS vous avez vu passer, combien de personnel vous avez vu passer, combien de budget, voilà, mais... Un grand merci et un grand bravo. Et peut-être que je me permettrai de temps en temps de venir faire un petit coucou pour dire qu'on a un petit souci. Bravo Gisèle, merci. Annoncer, mais ce n'est pas tout à fait une annonce, parce que tout le monde est au courant de la démission de Benjamin Gontier, qui a souhaité se retirer de notre conseil municipal. Donc, nous avons convoqué le suivant sur la liste, qui est Gérard Marcel, et qui n'a pas souhaité reprendre du service, comme tu l'avais un petit peu suggéré. Voilà, on a pas mal discuté ensemble, mais voilà, il a préféré ne pas reprendre du service. Donc j'ai eu sa lettre de démission ce matin et donc on va convoquer pour le prochain conseil municipal la suivante sur la liste qui est Marie-Madeleine Leclerc. Voilà. J'accueille avec plaisir Monsieur Quinqueton, notre... comment ça s'appelle votre titre ? Receveur municipal pour la commune de Dieupfy, qui nous dira peut-être quelques mots. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire sur votre départ ou sur votre... pas départ, mais... parce qu'on a un point qu'on souhaite faire un petit peu officiellement sur les finances de la commune. Donc Jacques Glaise prend un moment tout à l'heure pour le faire. Et donc ça nous semblait important que M. Quinqueton soit là pour entre guillemets surveiller que ce qu'on dise ne soit pas exagéré, déformé. Voilà. Alors le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal. Ah, l'appel. Monsieur Babelot.
Présent.
Monsieur Benoît.
Présent.
Madame Nelson. Monsieur Bussa, présent. Monsieur Chauville.
Présent.
Monsieur Domain.
Présent.
Madame Debarbieux.
Présent.
Bernard Delpal, qui est donc absent et qui a laissé un pouvoir... un Paulette Vignon. Monsieur Hébrard. Madame Girard. Alors, il n'y avait pas une réunion. Elle n'avait pas une réunion toutes les deux. Elles vont peut-être arriver. Monsieur Glaise. Madame Huguenin. Monsieur Jean. Madame Liagre. Monsieur Mancini. Je crois que c'est pareil. Ils sont au même endroit. Oui. Monsieur Gérard Marcel, donc démissionnaire. Madame Martin.
Présente.
Madame Yanni.
Présente.
Madame Morenas.
Présente.
Madame Pelin.
Présente.
Madame Perrin. Je pense qu'ils vont arriver. Monsieur Stein.
Présente.
Stein, pardon.
Sten.
Sten.
Merci.
J'ai toujours tendance à retrouver mon accent allemand. Qui...
Ah oui.
Et Madame Vignon. Merci. Donc l'approbation du procès-verbal, on a eu un échange avec nos quatre collègues de la minorité, on s'est rencontrés, ils avaient une petite remarque sur un point sur lequel voilà, on a apporté une correction. Et donc le... Est-ce qu'il est mon truc ? C'est derrière ?
Derrière toi.
Voilà, la phrase qu'on a rajoutée, c'est les abstentionnistes. C'était sur le vote concernant les indemnités, et donc les abstentionnistes signalent qu'ils n'ont pas été consultés dans la préparation de cette répartition et critiquent le principe d'indemnité corrélé à la situation personnelle de l'élu, craignant un risque de professionnalisation. Et bien, les voilà. Donc ça va, c'est ok. Voilà, le reste n'a pas bougé. Donc le procès verbal de la séance du 14 septembre, s'il n'y a pas d'avis négatif, est approuvé. Merci. Et bien on va passer aux finances. Monsieur l'adjoint à la santé et aux solidarités.
Ça va, hein ? Oui. Bon, les finances communales. On a décidé quand même de faire un petit point pour savoir un petit peu, après ce démarrage en juillet, où on en était et qu'est-ce que l'on pouvait dire sur ce point. Donc c'est un document qui a été écrit à la suite de plusieurs rencontres avec M. Quinqueton, qui est ici présent. Il est basé donc sur des chiffres avérés et qui ne relève en rien d'une interprétation. Alors, tout d'abord la dette. Suite à la souscription d'un prêt de 1 million d'euros fin 2019, la dette de la commune atteint au 1er janvier 2020 la somme de 3 320 000. Je vous fais abstraction des euros qui sont derrière. Cela représente, c'est ça qu'il faut surtout retenir, un montant de la dette par habitant de 1014 euros. Et il est intéressant de comparer ce chiffre à la moyenne des communes de la même taille de la Drôme, qui est de 648. Donc nous avons pratiquement 75% de plus que des communes de la même taille. En ce qui concerne les impôts, les recettes principales de la commune sont constituées par les impôts. Ce sont les trois taxes dont la commune décide les taux. La taxe d'habitation, qui, je le rappelle, est en évolution importante, puisque bientôt elle ne sera perçue que sur les résidences secondaires, mais dont le montant des recettes, en principe, sera compensé par l'État. Le taux actuel de cette taxe est de 9,54% et le montant perçu est de 579 000 euros. La taxe sur le foncier bâti, qui est perçue sur la totalité des constructions de Dolphy, son taux est de 18,20 et le montant perçu est de 968 000 euros. Enfin, une petite taxe, la taxe sur le foncier non bâti, qui correspond au terrain agricole de la commune et dont le taux est de 102,90%. Le montant perçu, malgré ce taux très important, n'est que de 25 000 euros. Les charges fixes incompressibles, elles sont constituées par les charges de personnel, les intérêts de la dette et les participations obligatoires. Par exemple, les assurances, les adhésions, les financements à la, communauté de communes, etc. Elle représente à Dolphy 54% des recettes du budget, à mettre en parallèle avec les autres communes comparables de la Drôme, qui sont à 48%. Donc là, on est à 6% au-dessus de la moyenne. La capacité d'autofinancement. Alors ça, c'est un indicateur qui est très important à connaître. Il est à Dolphy, dans nos finances, de 8%. Cela veut dire que nous avons 8% des recettes de fonctionnement qui, à la fin de l'année, sont disponibles pour le budget d'investissement et qui sont transférées du budget donc de fonctionnement au budget d'investissement. Ça représente 250 000 euros environ en 2020. C'est quand même relativement peu pour une commune de notre taille. Alors je fais un petit commentaire quand même un petit peu plus rassurant, en ce sens que notre possibilité d'investir ne va pas être limitée à 250 000 euros, puisqu'il va être largement augmenté de toutes les subventions que l'on pourra aller chercher. D'où l'intérêt d'aller chercher des subventions et de les découvrir au détour d'un texte. Quelques chiffres pour éclairer la situation actuelle des finances communales. En 2011, signature d'un bail avec la société Utopia pour l'installation d'un camping. 18 hectares sont loués pour 40 ans pour un loyer annuel de 1000 euros. 1140 aujourd'hui avec les revalorisations réglementaires. En 2014, la commune laisse se vendre le domaine de Réjaubert, 41 hectares, pour 2,9 millions d'euros. Initialement, quelques années auparavant, le vendeur en voulait 14 millions. En 2015, vente du camping des Grands Prés pour 388 000 euros. Le camping a été revendu en 2019 et on pense, on n'a pas le chiffre très exact, mais on pense que la transaction s'est faite aux alentours de un petit peu moins de 1 million. Une remarque quand même, c'est sûr que le propriétaire du camping avait fait d'importants investissements de rénovation, mais quand même le différentiel de 388 000 à un peu à peu près 1 million d'euros, il y a un différentiel important. En 2017, vente de l'ancienne poste, 150 000 euros pour environ 460 mètres carrés, c'est-à-dire 115 mètres carrés sur 4 niveaux. En 2020, vente de la portion basse du terrain roux, 110 000 euros pour 1233 mètres carrés, ce qui fait environ 89 euros le mètre carré. Alors les conséquences que nous en tirons, l'objectif il est triple. Il est de redresser la situation financière de la commune. En effet, si elle n'est pas catastrophique à travers les chiffres qu'on vous a donnés, elle n'est quand même pas très très bonne. Maintenir les services proposés par la commune et mettre en place les projets pour lesquels on a été élu. Quelles sont les pistes? Les dépenses générales sont systématiquement réexaminées, réfléchies, réduites dans la mesure du possible. Les recettes, elles aussi, devront être ajustées. En particulier, certains tarifs n'ont pas évolué depuis très longtemps. Il est indispensable de les mettre à plat et de les comparer aux coûts associés. Établir enfin des priorités parmi nos projets et pour chacun d'entre eux, rechercher de manière très approfondie le maximum de subventions à obtenir des financeurs institutionnels. Voilà.
Merci. Merci Jacques. Je suis entouré par les Jacques aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques remarques à faire supplémentaires, M. Quinqueton ou des...
Il a été signalé parce qu'effectivement l'emprunt de 1 million a fait un gros palier.
Les deux derniers projets, je parle sous la surveillance de M. Quinqueton et puis de Gisèle, les deux derniers projets importants qui ont été engagés par la commune, c'est le parking du terrain roux et la menuiserie Paulin. Donc au moment de la budgétisation de ces deux projets, les emprunts ont été prévus. Ils étaient même supérieurs à ce million. Et puis, en fait, par un jeu d'emprunt à court terme, la maire précédente a préféré différer au maximum la mobilisation de l'emprunt. Voilà. Voilà. Je suis partagé, on en a pas mal parlé avec M. Quinqueton, on est partagé sur la manière de faire. Bon, plus tard on emprunte, plus tard on rembourse, mais il faut quand même rembourser la somme à la fin. Les emprunts court terme sont quand même en général plus chers que les emprunts long terme, donc il y a des taux d'intérêt qui ont été payés qui auraient pu peut-être être évités. Voilà, je ne sais pas très bien pourquoi elle a... J'ai pas très bien compris pourquoi elle avait attendu autant pour souscrire ses emprunts. Je ne sais pas si... Bon. Peut-être un choix. Je suis surveillé.
Vous améliorez le bilan en cours. On peut différer certaines dépenses, jouer sur les dates pour permettre de donner un bilan meilleur.
Oui, en fait, le million, quand même, le trou, il y était. Il fallait les entreprises pour les payer, les terrains, les, voilà, tout le déroulement. Alors peut-être qu'elle avait en tête de tenir jusqu'aux élections, je ne sais pas. Peut-être qu'elle se disait, je laisse l'emprunt pour les suivants.
Question là-bas.
Oui, Nathalie. Geneviève.
De façon plus générale, est-ce que quelle est la courbe des emprunts prévus pour les années prochaines? Les remboursements, est-ce qu'il y a des emprunts qui arrivent à échéance très rapidement? Ou est-ce que ça pourrait se commencer?
Alors la courbe, ça me fait penser d'abord à la courbe des emprunts passés, mais ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais. La courbe, on a regardé depuis 12 ans comment s'étaient comportés les emprunts. En fait, il y avait peu d'emprunts au départ, de l'ordre de 1 million d'euros. Ça a été plutôt en baisse, et puis ça a monté. Il y a eu un gros emprunt. On était au-dessus de 4 millions au moment de la construction de la halle, la fin de la halle. Et puis, ça commençait à rebaisser doucement, et puis c'est remonté là avec ce million supplémentaire. Dans les années à venir, si on n'emprunte pas, pendant quand même 3 ans, on a une baisse vraiment très minime des remboursements. Parce que là, le dernier emprunt est au maximum et que y a un jeu d'écriture qui fait que pendant 3 ans, ça baisse très peu. Alors après, il y aura une baisse, mais pendant 3 ans, ça ne bouge pas beaucoup.
3-4 ans difficile parce que le fait de mobiliser l'emprunt sur une seule année de manière importante fait que d'un seul coup les annuités sont très importantes et il y a un palier sur 3-4 ans qui va être difficile et qui va jouer sur la CAF, on en parlait tout à l'heure, parce qu'évidemment les annuités d'emprunt vont peser très lourd pendant 3-4 ans. Donc effectivement la situation idéale ça serait de ne pas emprunter pendant cette période-là. Et puis après, de retrouver un rythme d'emprunt qui soit conforme à l'arrêt des échéances, enfin à l'arrêt des emprunts progressivement. C'est pour ça qu'on dit qu'une collectivité, elle doit tourner, elle doit avoir des emprunts maximum de 15 ans et elle doit tourner. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué d'emprunter aussi lourdement sur une seule année. En fait, ça ne permet pas d'avoir ce roulement. C'est pour ça qu'il y a 3-4 ans bloqués.
Alors la CAF, c'est la capacité d'autofinancement.
En fait, c'est ce qu'on dégage sur la c'est ce que vous dégagez sur la section de fonctionnement pour vous permettre d'investir. C'est disponible entre les recettes et les pour faire simple entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. C'est ce qui permet justement qui va vous permettre d'investir sans souscrire de nouveaux emprunts.
Dans 3 ans, on aura des capacités
supplémentaires. Je ne l'ai pas en tête là. Il faudra le regarder. Mais effectivement, l'endettement baissant un peu. Alors attention, hein, sous réserve, pas de mobilisation de nouvel emprunt, et sous réserve d'une CAF similaire, effectivement, elle va augmenter un petit peu la CAF, puisque l'endettement, enfin les annuités d'emprunt baissent dans 3-4 ans. Mais en fait, bon, ça peut se retrouver, hein, si vous voulez le chiffre, mais ça sous-entend qu'il n'y a pas de nouveaux emprunts, et que la capacité d'autofinancement est la même et sur le même modèle. Bon, j'ai cru comprendre que vous souhaitez faire en sorte de l'améliorer aussi.
L'idée qui a été un tout petit peu évoquée là, c'est d'essayer d'améliorer cette capacité d'autofinancement en augmentant un peu les recettes et en baissant un petit peu les charges. Parce que ne pas emprunter, c'est compliqué. Ça veut dire ne rien faire. Hein. Du point de vue investissement, là, on pousse pour... Le projet des archives et le projet du skatepark pour avoir des subventions, on va dire, maximales, de l'ordre de 75%, mais un, c'est pas gagné, et deux, même avec 75%, sur 160 000 euros, t'as quand même 40 000 euros à mettre dans la, Voilà, donc sur les archives, c'est ça. Sur le skatepark, c'est un budget entre... Alors, le premier budget était de 80 000, et puis c'est monté à 180, ça sera peut-être 150. Mais enfin, bon, il faut qu'on arrive à mobiliser le maximum de subventions, mais ne pas du tout emprunter, c'est compliqué. Mais bon, on en reparlera. Hein. Mais l'objectif, c'est plutôt d'essayer de faire des économies d'un côté. On a évoqué, par exemple, quelque chose, Alain travaille dessus, Alain Chauville travaille dessus en ce moment, sur le fait d'éclairer, ne pas éclairer les lumières la nuit. C'est rapidement 8 ou 10 000 euros d'économie. Donc, et sans que ce soit quelque chose de catastrophique, quoi. On ne va pas licencier du monde, hein. C'est pas ça le... Donc c'est simplement en faisant des choses comme ça un petit peu pointues, on peut arriver à baisser la facture. Voilà.
Par ailleurs, il y a un petit élément favorable en ce sens que les taux restent toujours très, très bas. Est-ce qu'ils le resteront toujours, ça ?
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce... Camille, non ? Marc, tu avais une question ? Dommage que le public ne soit pas là, hein, parce que c'est des choses que... On compte sur vous, Madame Foustet, pour que...
Non, mais je me posais la question de savoir... Bon, on a un ordre du jour un petit peu chargé, mais de savoir si c'était le lieu pour évoquer éventuellement quelles étaient les pistes, à la fois pour augmenter les recettes. Alors moi, je sais que j'ai travaillé, par exemple, sur les tarifs de mutualisation du matériel communal qu'on louait à des prix cadeaux, par exemple, à d'autres communes. Donc on a, avec Fred Bonnel, on a revu ça. On pensait aux tarifs aussi du marché. Alors je sais pas si c'est l'endroit pour en discuter, éventuellement pour évoquer les pistes, ou est-ce que ça reste un travail à faire interne à la mairie.
Je pense qu'on en parlera forcément au conseil municipal, mais qu'on va vous faire des propositions. Hein. On a Alain, Jacques et moi, on se voit régulièrement, souvent avec M. Quinqueton, souvent avec Gisèle, et on va avoir plusieurs propositions. Je pense qu'en discuter à 25 sans l'avoir vraiment préparé, c'est un peu difficile. C'était plutôt de faire un état des lieux et de, voilà, vous ayez en tête ces quelques chiffres. Voilà, sans... voilà, je ne peux pas dire plus. Mais...
Oui. En fait, je voulais aussi juste dire qu'on a quand même comme priorité dans notre programme électoral misé sur une réhabilitation de l'école élémentaire qui est dans un état de vétusté quand même assez avancé et qu'évidemment, à l'aune de ces éléments-là, les choses ne sont pas aussi simples. Pour autant, on n'abandonne pas le projet. Il faudra juste trouver des financements pour que ça se fasse quand même et peut-être... Ça sera peut-être, l'échéancier sera peut-être un peu plus étalé dans le temps. Voilà, on s'y attendait pas.
Juste préciser, parce que M. Blaise a parlé de la capacité d'autofinancement un peu faible, j'insiste juste sur le fait qu'elle est quand même là, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'en ont pas. Et compte tenu d'un endettement lourd, donc ça c'est un peu, on va dire, le point noir, il y a effectivement... un endettement qui est supérieur à la moyenne des communes de la strate. Par contre, la capacité d'autofinancement, si elle est de 8%, ça veut dire que déjà elle est positive, et qu'elle prend en compte cet endettement lourd. Ça veut dire que dès qu'il y aura du désendettement, ça va augmenter cette capacité. Donc c'est pas neutre non plus. Ça veut dire qu'on parlait d'à peu près, moi j'ai 245 000 euros de tête de dégager chaque année, donc si effectivement il y a des améliorations de ce côté-là, ça fait quand même du pouvoir pour l'investissement.
Eh bien, je voulais...
Mais autant que je me souvienne, elle est quand même aussi là, légèrement en dessous de la capacité, la CAF moyenne des communes qui nous sont comparables. J'ai eu pour souvenir 11%, non?
Je voulais, tant que M. Quinqueton cherche, je voulais vous dire que le plus gros de ce qu'on vous a présenté sera dans le bulletin qui va sortir au mois de décembre, là, le bulletin municipal. Et puis, je voulais, à la remarque de Jacques, que vous précisiez qu'on a oublié de désigner un secrétaire. Et que donc, Jacques, qui me le fait remarquer, je pense que c'est tout indiqué pour faire le secrétaire. qui est-ce qui veut bien être secrétaire? C'est Jacques qui l'a dit, hein? C'est Vincent? Allez, Vincent. Merci, Vincent.
Oui, alors du coup, ça y est, je suis retombé sur les chiffres. Non, moi je suis moins négatif quand même que M. Glaise, parce que 8% d'autofinancement, ça représente 75 euros par habitant. La moyenne départementale est de 61 euros par habitant, et la moyenne nationale est de 110. Alors c'est vrai qu'il y a une fourchette un peu large entre la moyenne nationale et départementale, donc la commune se situe au milieu avec un fort endettement, donc c'est quand même pas un chiffre négatif.
Je pense pour avoir assisté au dernier conseil municipal de la mandature précédente, je me souviens que et je pense que Gisèle pourra peut-être le confirmer, c'était quand même un souci de Mme Priotto de faire attention à ne pas laisser déraper les dépenses. À part peut-être effectivement les emprunts qui ont un peu tiré sur la. Voilà, ben écoutez, on va rester là sur les finances. On en reparle sur les solutions. On en reparlera. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Vous voulez rester ou vous rentrez? Non, ça va? Bon, super. C'est encore Jacques qui a la parole pour la désignation des membres de la commission communale des impôts directs.
Oui, il s'agit là de désigner des membres de cette commission communale. Alors je vous dis quand même un petit peu de quoi il s'agit. Les collectivités locales perçoivent des produits de la taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti, les trois taxes qu'on a vues tout à l'heure. Ces impôts sont calculés à partir de valeurs locatives, cadastrales, qui sont déterminées par les services de l'État. Chaque année se réunit une commission communale des impôts directs, instance consultative qui met en relation l'administration fiscale et les représentants des contribuables de la commune. Le rôle de cette commission est d'émettre des avis sur les valeurs locatives et cadastrales et d'en assurer leur mise à jour régulière. La commission se réunit une fois par an. À chaque renouvellement du conseil municipal, une nouvelle commission doit être constituée. 32 candidats sont à proposer par le conseil municipal. 16 d'entre eux, 8 titulaires et 8 suppléants, seront ensuite choisis par le directeur départemental des finances publiques pour siéger à la commission. Alors les commissaires doivent remplir un certain nombre de critères. Ils doivent être âgés de plus de 25 ans, de nationalité française ou être ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils, être inscrits sur le rôle d'imposition de la commune et être plus ou moins au courant un peu de la vie locale. Un groupe de travail qui a associé des élus de la majorité et des élus de la minorité a été constitué à l'issue du dernier conseil municipal et la liste des contribuables vous est proposée au titre de ce groupe de travail. Alors, cette liste, vous l'avez là sous les yeux, on ne va pas la commenter. Si éventuellement vous aviez des remarques à faire, Bah, c'est le moment ou jamais. Si quelqu'un aurait, par exemple, à votre connaissance, moins de 25 ans, ou ne jouissait pas de ses droits civils. Voilà. Donc, je vous laisse 30 secondes pour en prendre connaissance. Alors, il faut aussi, c'est une particularité, qu'il y ait dedans un commissaire qui n'habite pas la commune et qui paye des impôts. Et puis, il en faut un autre qui soit propriétaire de terrains boisés. Voilà, donc on s'est efforcé de remplir ces deux conditions aussi. Avez-vous des remarques ? Bien, donc je vous demande de passer, on passe au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre la constitution de cette liste ? Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent ? Bon, donc à l'unanimité, cette liste est approuvée. Alors, toujours le même exercice, mais légèrement différent, en ce sens que la communauté de communes doit aussi avoir une institution qui est un peu du même type, puisqu'il y a des bases d'imposition aussi pour la communauté de communes. Et donc, on a une autre liste qui est à fournir. Alors, cette liste, les critères sont les mêmes, hein. Simplement, au lieu qu'il y ait une personne qui ne réside pas dans la commune, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne réside pas dans la communauté de communes. Voilà. Et cette liste, elle est composée de 10 commissaires. En ce qui nous concerne, nous, la commune de Diolfi est sollicitée pour proposer 14 noms, c'est-à-dire 7 titulaires, et 7 suppléants sur les 10. Hein. Le nombre est relativement important compte tenu de l'importance de la commune de Diolfi. Un groupe de travail, là aussi, a associé des élus de la majorité municipale et des élus de la minorité, et donc a procédé à l'établissement d'une liste de contribuables. Cette liste, elle s'affiche, si tout marche bien, là, voilà. Alors, là aussi, je vous laisse 2 secondes, ou un peu plus, peut-être 5, pour prendre connaissance de cette liste et éventuellement faire des remarques. Il n'y en a que 6. Oui, on avait dit 7 et 7. Où il est, Oui, c'est ça. Il en manque un peut-être en suppléant. Parce que bon, on n'a sans doute pas eu des informations qui permettaient de déterminer un suppléant qui n'habite pas la communauté de communes. Bon, à mon avis, ils feront avec, parce qu'on nous avait dit même officieusement que l'on pouvait ne pas remplir 32 et 32, et là c'est pareil. Donc l'essentiel c'est de désigner non, et ensuite le directeur départemental, lui, il pioche. Voilà. Bon, y a-t-il des personnes... Oui.
Il y a une copie. Là, c'est un commissaire titulaire hors périmètre, c'est Karine Laurent, et sur nos papiers, c'est Anne Voleur.
Anne Voleur, c'est pour Dieu.
Là, c'est pas la même chose qu'il y a à l'écran que ce qu'il y a sur nos papiers. C'est tout. Je...
Oui, c'est ce qu'on a pris aussi en considération. On a essayé, si quelqu'un était en dehors de la communauté de communes, on a essayé de prendre quelqu'un qui n'habitait pas très, très loin, parce que sinon, ça présente quand même des difficultés. Et nécessairement, l'intéressé va dire « Non, je ne veux pas venir. » Voilà. Bon, on regardera ça d'un peu plus près.
La personne sur laquelle on vote, c'est donc... Karine Laurent, comme commissaire titulaire domicilié hors du périmètre communautaire. On est d'accord ? Ça va ? Ok.
Bien, on procède au vote. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Bien. La liste est donc adoptée à l'unanimité.
Alors, le point suivant concerne la désignation du représentant de la commune de Diolfi pour la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté de communes, la CLECT. Alors, en quelques mots, on doit désigner des représentants pour cette commission. Cette commission est chargée de discuter et de décider des transferts de charges en cas de transfert de compétences. J'ai deux exemples en tête. Le premier concerne la personne qui s'occupe des archives et qui est embauchée par l'ensemble de la communauté de communes, mais qui travaille chez chacune des communes, hein, suivant un calendrier préétabli, avec forcément de temps en temps des petits changements. C'est la CLECT qui décide de combien va payer la commune de Bézaudun-sur-Bine, la commune de Crupy, la commune de Poët-Laval. Voilà, donc c'est quand même un rôle assez important, c'est lié aux finances, et c'est dans les relations avec les autres communes, trouver un compromis pour ça. Le deuxième exemple, c'est un exemple, par exemple, si on décidait conjointement avec la communauté de communes de, je ne sais pas, transférer la compétence de la piscine, comment on fait pour qui paye quoi entre la commune de Diolfi, la commune de Poët-Laval, la commune de la Bégude, voilà. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui tienne un peu la barre du point de vue finance. Donc on avait pensé, on voulait vous proposer la candidature d'Alain Chauville comme délégué titulaire et de Marc Hébrard pour suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Et donc, est-ce que quelqu'un est contre cette proposition? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, on peut considérer que tout le monde est pour. Je vous remercie. Oui. Monsieur Quinqueton me souffle que le dernier exemple de charge transférée, c'est le KM, qui est passé sous la compétence de la communauté de communes et qui, donc, il a fallu calculer comment les profs étaient payés, comment les charges des bâtiments, comment... C'est ça. La délibération suivante, je vais passer le micro à Frédéric Sten. Concerne Sten. Encore, le prochain essai. Le prochain sera le bon.
Sten. Sten. Merci. Donc il s'agit de revenir sur la situation des associations qui ont demandé des subventions. Lors du dernier conseil municipal, vous vous en souvenez, on a attribué une première partie des subventions. Donc pour certaines associations, nous avons examiné et pris en compte la totalité de leurs demandes. Et pour certaines, pour 12 d'entre elles, donc en raison du Covid, des périodes de confinement ainsi que du report des élections, nous avions décidé d'attribuer dans un premier temps 2/3 de la subvention de l'année précédente, puis d'attendre qu'elles nous sollicitent si elles avaient besoin de davantage de financement. Et qu'elles nous fournissent les pièces nécessaires afin que nous puissions nous rendre compte de leurs besoins. Là, sur les 12 associations qui étaient concernées par cette première attribution de 2/3 de subventions, et je rappelle quand même que nous avions décidé ça pour verser le plus rapidement possible, hein, étant donné qu'il y avait eu des prises de retard importantes et que les associations avaient besoin de cet argent. Donc c'était un premier versement rapide et volontaire. et puis qu'aujourd'hui, donc, elles sont moins aux abois et qu'on peut compléter tranquillement pour celles qui en ont besoin. Donc sur les 12, 6 ont sollicité un entretien, nous les avons rencontrés, parfois avec la minorité, et nous avons examiné leurs pièces et leurs arguments pour aujourd'hui en délibérer. Pour les 6, donc, elles ont exposé leur maintien de salaire pendant cette période de confinement, ou bien des dépenses obligatoires de même niveau, souvent des charges fixes, ou bien l'impossibilité d'organiser des recettes complémentaires sur des buvettes, des manifestations. Et donc il vous est aujourd'hui proposé de compléter cette première partie de subvention jusqu'à la hauteur de la subvention qui leur avait été versée l'année dernière. On va voter globalement ce principe, puisque on a déjà examiné au cas par cas les associations la fois dernière, et donc je vous en présente le récapitulatif. Diulfi Karaté Do, qui avait obtenu en 2019 300 €, a eu lors du dernier conseil municipal 200 € versés et sollicite une proposition complémentaire de 100 € pour revenir à 300 €. Le football club 540 avait touché 2 700 € en 2019. Nous avions versé au dernier conseil 2 000 € et il nous sollicite pour une demande complémentaire de 700 €. L'USDB rugby avait touché 3 500 € en 2019. Ils ont reçu 2 300 € lors du dernier conseil municipal et nous sollicitent pour le complément à hauteur de 1 200 €. L'amicale laïque avait obtenu l'année dernière 2 400 €, a obtenu 1 600 € lors du dernier conseil municipal et nous sollicite pour les 800 € supplémentaires. L'association Véloxyroc VTT obtenait l'année dernière 500 €, a obtenu 350 € et sollicite le complément à 150 €. La gym volontaire, qui avait obtenu l'année dernière 400 €, n'était pas en ordre de bataille pour solliciter la subvention lors du dernier conseil municipal, mais nous a sollicité, nous les avons rencontrés et nous ont montré qu'ils avaient effectivement besoin de cette subvention à hauteur de 400 €. Voilà, et je vous propose d'en délibérer. Est-ce que je mets au vote ou Christian, tu mets au vote? Donc, oui, est-ce qu'il y a des questions?
Il ne nous semblait pas forcément normal que les associations aient été impactées en raison du Covid. Donc je vous remercie, au nom de mes 3 autres camarades, d'avoir pris la peine de les contacter. Et donc nous allons voter bien évidemment pour ces subventions.
Je vous en remercie. J'en profite aussi pour dire que suite à ce conseil municipal, notre démarche a été immédiatement après de faire un courrier informatif aux associations concernées pour leur dire ce qu'il en était et les inviter à prendre contact avec nous si besoin, et que certaines qui ne nous ont pas sollicitées nous ont même dit qu'elles avaient eu suffisamment, que cette période en fait avait effectivement baissé leurs besoins et que ça correspondait à ce que nous leur proposions. Bon, voilà, je crois qu'on est aujourd'hui juste dans ce qui est proposé maintenant. Je vous propose donc de mettre au vote qui est pour cette délibération. Je vous remercie à l'unanimité.
Monsieur Sten, je vous remercie. Alors, la décision suivante concerne la participation de la commune ou l'adhésion de la commune à un PLUI. La loi qui est passée en 2014, qui s'appelle la loi Allure, oblige les communes à transférer leurs compétences en termes d'urbanisme aux communautés de communes. Ça, c'est la loi. Et puis ensuite, il y a eu les aménagements. Et on a dit, mais quand même, si les communes, 25% des communes représentant 20% de la population ne veulent pas, on peut quand même attendre un peu. Donc on a eu deux réunions très intéressantes avec l'ensemble des délégués des 21 communes de la communauté de communes autour de ce problème de l'urbanisme sur notre territoire, de la gestion commune de l'urbanisme aux 21 communes. On a constaté d'abord qu'il y avait un vrai accord général sur le fait qu'on était tous sur le même territoire et que c'était important de gérer ces problèmes d'urbanisme ensemble. Donc une forme d'accord sur le, on va dire, sur le moyen terme ou sur le long terme. On s'est rendu compte aussi au cours de ces deux réunions qu'un certain nombre de communes étaient quand même très loin d'un PLU, même d'un PLU communal, et donc encore plus loin d'un PLUI. Sur les 21 communes, je crois qu'il y en a que 5 qui ont, 4 ou 5 qui ont un PLU. Donc ça veut dire que les 16 autres sont vraiment très loin de mettre en place un texte qui est quand même complexe, sur lequel il y a beaucoup d'enjeux. Et puis dans la discussion, il est apparu que il y avait quand même du travail préparatoire à faire avant de partir sur une opération aussi importante en termes d'enjeux d'avenir. Donc la quasi-totalité des maires présents et les délégués présents au cours de ces réunions se sont mis d'accord pour dire que c'était un petit peu trop tôt pour démarrer, pour mettre tout de suite en place un PLUI. Et il nous a semblé que par solidarité, et puis solidarité avec les petites communes, et puis parce qu'effectivement, il y a quand même un travail préparatoire à faire qu'on n'a pas eu le temps de faire, hein, c'est aussi lié à au décalage des élections municipales, mais que dans les prochains mois, dans l'année qui vient, on va essayer d'avancer là-dessus. Voilà, donc nous voulions vous proposer de voter une délibération marquant notre opposition à la mise en place rapide d'un PLUI. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci. Bon, qu'on soit solidaire aux petites communes, donc on a échangé sur ce sujet vendredi et on l'a compris, c'était bien exposé. Par contre, c'est vrai que donc là, j'interpelle le vice-président de développement commission éco de la communauté de communes, c'est que enfin moi ce que je demande, c'est que quand même l'étude commence assez rapidement, au moins le travail, parce que il faudrait pas que les grosses communes qui ont un PLU vont développer leur activité, enfin je parle du point de vue économique, hein, leur activité économique, et que justement il y a un déséquilibre à terme avec les petits villages qui doivent faire partie de cette stratégie de développement éco, mais vraiment sur notre territoire. Donc il faut que les communes, les grandes communes, restent un peu moteurs dans ce travail. Et je pense que dans les commissions, on va souvent en parler, enfin la commission développement éco, et voilà, il faut pas que ça reste un sujet... il est compliqué, je pense qu'il fait peur, hein, c'est un gros boulot, mais il faut quand même rester en alerte et qu'on le fasse avancer. Je sais qu'il y a des communes quand même qui le demandent, hein, je pense au maire de la Roche-Saint-Secret, il en parle souvent, donc il a un besoin pour animer économiquement son village, et il faut qu'on soit là. Voilà, c'était juste une petite remarque là-dessus. Merci.
Moi, je veux
Oui, éventuellement, je peux ajouter, dans le cadre de mon rôle au niveau de l'Interco, effectivement, tu as tout à fait raison, Patrice. C'est-à-dire que ce délai, il ne faut pas considérer que c'est un abandon. Surtout pas. Hein, c'est-à-dire que effectivement les grosses communes, mais tout ça a été assez clairement exprimé, c'est-à-dire que il faut que la communauté de communes continue d'être moteur sur ce sujet et absolument qu'on se mette au travail. Alors ça va être peut-être un petit peu compliqué, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à la rentrée 2021, mais effectivement, c'est en aucun cas un délai, d'autant plus que même moi je rajoutais, hein, c'est pas l'enjeu, il n'est même pas économique. Développement touristique, au patrimoine, au défi climat, etc. Donc c'est ô combien important. Effectivement, Patrice, tout à fait.
Je pense que c'est important de se mettre à la place d'une petite commune, je ne sais pas, commune de Combes. Ok, on a décidé de faire un PLUI et la communauté de communes trouve que ce serait très bien de faire un grand camping sur la commune de Combes. C'est tout plat. C'est en hauteur, il y a une belle vue, il y a de l'eau, super, on fait un grand camping. Et la commune de Combes n'a pas envie. On est 39 délégués, la commune de Combes a un délégué. Je pense qu'il faut quand même qu'on imagine des situations où la commune et la communauté de communes ne pas être d'accord. Et il y a une forme de gouvernance qui respecte la prédominance de la commune. Hein, et puis même sans aller jusqu'à Combes, imaginons une seconde que le PLU soit à la charge de la Comcom et que Jean-Marc Audergon décide de l'urbanisme sur la commune, hein, avec Christine Priotto, maire. Je pense qu'il faut qu'on imagine des situations où tout le monde n'est pas forcément d'accord et où donc il faut que la gouvernance soit prévue. Et ça, c'est pas du tout. C'est à construire, hein. C'est à construire. Et c'est à construire avec toutes les communes autour.
Mais moi, je voulais juste rappeler que la communauté de communes a déjà mis en place le PLH, donc le plan local de l'habitat, qui est quand même un gros travail d'état des lieux, justement, de tout ce qui est habitat sur le territoire. Et qu'effectivement, le PLUI viendrait à la suite. Ça va tout à fait dans le même sens de pouvoir organiser la suite.
La Comcom a commandé auprès d'Epora, qui est un organisme foncier régional, dont les compétences sont en général d'aider au financement d'acquisition foncière, hein, d'aider les collectivités locales, mais aussi qui ont compétence à faire des études urbanistiques. Et donc on a commandé à Epora une étude de gisement qui se porte sur l'ensemble de la communauté de communes c'est un travail de recensement des opportunités sur chacune des communes, des opportunités en termes de foncier pour du logement ou de l'implantation artisanale et industrielle. Donc cette étude de fond va être faite et ça servira de, entre autres, aussi de socle à ce qui pourra être après intégré à un PLU.
Merci. Je vous propose donc de procéder au vote. Donc je vous propose que nous nous prononcions contre la mise en place d'un PLUI rapidement. Qui est-ce qui est pour ? Il y en a une qui suit. Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui est contre le fait d'être contre ? Je vous remercie. Un petit mot sur la décision suivante concerne un service de paiement en ligne pour l'encaissement des recettes communales. On nous demande de plus en plus le paiement par carte, enfin bon, le paiement en ligne, le paiement plus facilité, notamment. Au niveau de l'eau, au niveau de la crèche, au niveau des cantines, au niveau des places de marché. Voilà, donc le Trésor public, au niveau national, propose une formule qui s'appelle PayFIP et qui est gratuite pour les collectivités locales, hein, mais qui permet aux usagers de payer directement leur facture, leur, hein, c'est ça, en ligne. Est-ce que je... C'est à peu près.
Oui, alors, oui, merci. En fait, vous savez tous que, d'une part, la trésorerie va fermer au 1er janvier 2021, et que donc, dans ce cadre-là, j'ai un petit peu insisté, effectivement, auprès du maire, pour mettre en place ce système. En plus, les grosses communes, quand je dis grosses communes, moyenne commune, mais Dieu le fait, en fait partie, ont en plus une obligation de proposer une diversification de paiements, et notamment les paiements en ligne. Et il me semble opportun, justement, en cette période où les usagers vont avoir un petit peu plus de mal à trouver des interlocuteurs, de diversifier la demande et de proposer effectivement PayFIP. Alors PayFIP, en deux mots, c'est le paiement en ligne, mais sous deux formes. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Tipeee. Aujourd'hui, PayFIP est plus complet. C'est un Tipeee, c'est-à-dire un paiement par carte bleue, un paiement Internet par carte bleue. C'est un choix, en fait, entre un paiement Internet par carte bleue ou un paiement Internet par prélèvement unique. C'est-à-dire qu'en gros, soit on rentre sa carte bleue, on paye comme ça, soit on rentre son RIB et on paye par un prélèvement unique sur le RIB. Alors, pour compléter juste l'information, le service est presque gratuit. Presque gratuit. Alors, il est gratuit au niveau du support, puisque c'est la DGFiP qui met à disposition le portail qui prend en charge toute la maintenance, etc. Par contre, il y a une petite différence en paiement en ligne. Alors là, je vous engage justement à inciter un peu vos usagers. Le paiement donc en ligne par prélèvement est totalement gratuit. Par contre, le paiement en ligne par carte bancaire, il y a des petits frais associés. Alors c'est minime, hein, c'est des centimes d'euros pour les transactions. C'est comme un terminal carte bleue pour un commerçant. Il y a des tout petits frais associés. Voilà, il faut le savoir quand même. Ces frais, il n'y en a pas sur le prélèvement. Voilà.
Oui, qu'en est-il du paiement dans les bureaux de tabac?
Alors, c'est une bonne question. Effectivement, les bureaux de tabac, on appelle ça le Data Matrix. Il est mis en place. Alors, Dieu le fit, je me tourne vers Mme Chambonnet, je crois qu'on ne l'a pas encore. C'est des communes où il n'est pas encore mis en place, alors qu'il est effectivement utile. Le paiement au bureau de tabac, c'est très simple à mettre en place. Alors, Mme Chambonnet, elle est beaucoup sollicitée en ce moment. Je ne veux pas abuser. Je pense que Alors, sur la constatation qu'on a fait, le PFIP, a priori, il y a beaucoup plus de sollicitations sur le PFIP, sur le paiement par Internet, parce qu'il faut savoir que le Data Matrix, donc le paiement au bureau de tabac, eh ben, il est un peu limité. Alors, Dieu le fit, vous avez la chance, justement, sur tout le territoire. Il n'y a qu'un bureau de tabac sur le territoire de la communauté de communes. Et il est à Dieu le fit, c'est celui de l'église, là. C'est le seul qui permet le paiement, justement, chez le buraliste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a des modes de paiement qui permettent les titres. À Dieu le fit, il n'y a pas de rôle, de facture de rôle, il n'y a pas de rôle d'eau, etc. C'est le SIEA. Donc le SIEA le met en place. Par contre, Dieu le fit, c'est simplement des titres. Et sur les titres, si on utilise, et c'est le cas pour Dieu le fit, si on utilise une formule qui s'appelle le PCDTIC, c'est-à-dire qu'on envoie directement les factures par la DGFiP, c'est la DGFiP qui envoie toutes les factures, et bien là, il est intégré le Data Matrix. Donc directement, en fait, tous les titres, par ce biais-là, les gens peuvent aller payer au bureau de tabac. Il suffit d'avoir le petit QR code, là, en bas de l'avis de paiement, et donc c'est possible aussi. Voilà.
Je retiens quand même de votre intervention que ce sera un petit peu plus difficile pour les utilisateurs de trouver un interlocuteur. J'aurais bien aimé que Madame, votre chef, Hiroud Ebiol, entende un peu plus ça. Enfin bon, c'est... Elle applique des règles supérieures. Je voulais dire un mot aussi sur ce, par rapport à ce, ce départ de la trésorerie. On est en, pour parler avec la Comcov, on essaie de faire avancer les choses pour qu'il y ait un espace France Service à Dieulfi rapidement. C'est un des dossiers sur lequel on pousse. C'est pas nous qui avons directement la main, donc c'est un peu plus lent, un peu plus, voilà, c'est un peu plus lourd, hein, mais c'est, je pense qu'on en parlera jeudi. On a un conseil communautaire. Il faudra qu'on mette un peu la pression. Est-ce que tout le monde est pour ce PFIP? Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, c'est une obligation.
Ah.
Il y a une partie de notre population qui va être perdue. Je répète pour que ce soit bien enregistré.
Elle va être perdue parce que la technologie numérique, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, c'est vrai que, bon, il y a une obligation, on est obligé de passer avec cet outil. Derrière, si on n'a pas une aide, enfin, un lieu tel que les maisons France Service qui viennent un peu pallier à la disparition de la perception, bon ben voilà, c'est. On coupe. Donc je pense qu'on risque d'avoir une partie de la population qui va se retrouver en mairie et qui va dire qu'est-ce que je fais, comment je paye, où j'en suis, où je vais. Voilà.
C'est bien pour ça que je posais la question du tabac.
Oui, alors c'est une bonne remarque. Juste, j'ai pas précisé parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas aller sur Internet. Et donc, pour compléter, alors pour Dieulfi, encore une fois, les communes un petit peu isolées, c'est un peu plus problématique, mais pour Dieulfi, il faut savoir que le bureau de tabac, je ne l'ai peut-être pas précisé, PFIP, donc c'est paiement Internet, carte bleue ou prélèvement, et le bureau de tabac a la possibilité d'encaisser en espèces jusqu'à 300 euros, et sinon par carte bleue, par carte bancaire, voilà. Mais bon, ça reste, pour le moment, il n'y a que un tabac sur le territoire.
Ok, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons évoquer maintenant la candidature de la commune pour l'élaboration d'un schéma directeur immobilier et énergétique.
C'est moi.
Geneviève.
Alors oui, vous avez bien compris qu'on allait avoir besoin de sous si on voulait pouvoir aborder des projets. Donc on s'est porté candidat, la commune de Dieulfi s'est portée candidate à l'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'un schéma directeur immobilier et énergétique. Alors ce titre, en fait, c'est l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et la Banque des territoires qui se sont associés pour lancer un appel à manifestation d'intérêt régional qui permettra d'identifier 20 collectivités souhaitant s'engager dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce fameux schéma directeur immobilier. C'est un schéma qui permettra d'avoir une vision qualitative et quantitative du patrimoine de la collectivité et de dégager des priorités et des ressources financières. C'est un schéma, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui va donc sélectionner 20 collectivités, soit communes, soit communautés de communes, privilégiera principalement les collectivités pour lesquelles le patrimoine bâti est un enjeu important, bien sûr, avec un outil nécessaire qui sera une programmation pluriannuelle d'investissement ambitieux. Ce schéma sera piloté par les collectivités, le prestataire sera retenu et financé par l'ADEME et la Banque des territoires, et il interviendra en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Les collectivités qui auront été sélectionnées bénéficieront chacune à titre gracieux d'un accompagnement financé à 50% par l'ADEME et à 50% par la Banque des territoires. L'accompagnement sera réalisé par un prestataire retenu et par l'ADEME et par la Banque des territoires. Et donc, nous avons été largement encouragés par le SDEL, le syndicat départemental d'énergie de la Drôme, à participer à cet appel à manifestation d'intérêt, parce que nous avons tout à fait les critères qui correspondent à cet appel à projet. Voilà. Voilà un peu. Donc si vous voulez savoir un peu plus, nous avons un dossier qui est tout à fait disponible à la consultation. Je ne me rappelle plus par contre quand est-ce qu'aura lieu le... Tu sais Camille, tu te souviens quand est-ce qu'aura lieu le...
Courant décembre.
C'est courant décembre, c'est pour la fin de l'année.
Le résultat, c'est courant décembre.
Voilà.
Je voulais rajouter deux petites choses. Les 20 collectivités qui vont être choisies, c'est sur la région, Rhône-Alpes. Et puis, on a quand même, en faisant le dossier, on s'est rendu compte de ça, la commune a quand même plus de 13 000 mètres carrés de bâtiments. Donc on est quand même propriétaire de beaucoup de choses sur la commune de Dieulefit, beaucoup d'endroits. Et il y a évidemment des gros efforts à faire sur sur les problèmes énergétiques, notamment sur les problèmes d'isolation thermique.
Et c'est en même temps un projet qui nous permettra déjà effectivement de décompter un petit peu tout ce qu'on a, de voir dans quel état c'est et de voir qu'est-ce qu'on en fait derrière. Ça nous permettra d'avoir un bilan un peu et énergétique et immobilier de ce qui est à la commune. Et de voir comment on le dispatche, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'organise, qu'est-ce qu'on peut mutualiser, voilà.
Pour compléter ce que j'avais noté aussi pour le bulletin municipal, c'est qu'on a une facture énergétique de la commune en 2020 qui est de 196 000 euros. Donc c'est un petit peu moins que notre autofinancement là. Donc ça doit être à peu près 7%, j'imagine. Donc voilà sur quoi on va jouer avec ce schéma.
Voilà en gros ce projet. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, moi j'en ai une. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça voulait dire. Bénéficieront chacune, à titre gracieux, d'un accompagnement financé à 50% du coût total par l'ADEME et 50% par la Banque des Territoires. Qu'est-ce que c'est qui est financé ? C'est l'assistance à la maîtrise d'œuvre.
C'est l'étude. Pour l'instant, le schéma directeur, c'est une étude. C'est donc un bureau d'études qui sera proposé par l'ADEME et par la Banque des Territoires. Et à ce titre-là, c'est le coût sera partagé entre l'ADEME et la Banque des Territoires.
Oui,
là, on est sur l'étude, hein, là.
Oui,
c'est une étude.
Oui, c'est ça. Et donc, le prestataire qui sera retenu, il interviendra en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et c'est ça qui nous sera payé, c'est l'assistance.
C'est l'assistant. Et non, ce n'est pas tous les travaux de rénovation, si c'était ça la question.
On refait le gymnase, l'ancien collège, la mairie va être...
Ouais,
gratuitement.
L'école.
Finalement, on n'a pas besoin d'emprunter, monsieur Quinqueton. Je vous l'annonce. On économise 200 000 euros par an.
Yes. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Ouais, on peut l'envoyer.
Oui, on peut l'envoyer, bien sûr. Oui. À noter. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Non, donc c'est à l'unanimité. Merci.
J'enchaîne. Donc je voulais vous présenter donc la candidature de Dieulefit au programme Petite Ville de demain. Donc c'est le ministère de la Cohésion des Territoires qui a lancé un programme pour soutenir 1000 petites villes de demain en France. Donc qui sont des villes de moins de 20 000 habitants. Et qui sont des pôles de centralité, c'est-à-dire qu'elles, pour leur territoire. Donc elles regroupent un certain nombre de services et d'équipements scolaires, santé, commerce, services, etc. Et ce sont aussi des pôles de centralité qui sont fragiles, avec des commerces qui ne tiennent pas forcément sur la durée espérée, un exode des services de santé vers les grandes agglomérations, un vieillissement de la population, chômage des jeunes, etc. Donc pour aider ces pôles de centralité fragile, le programme propose un panel de 78 mesures d'accompagnement et de financement des actions que ces petites villes de demain vont entreprendre pour assurer leur revitalisation. Donc nous avons trouvé que ce programme était fait pour nous. Nous avons donc candidaté et les résultats sont prévus pour début décembre, le 7 décembre, il me semble. Voilà, donc nous avons exposé notre programme pour attirer des jeunes et des familles, soutenir l'économie existante, développer les solidarités et conserver l'offre de santé, faire de la transition écologique un levier de revitalisation, améliorer le cadre de vie de la ville et développer l'offre culturelle et soutenir l'activité associative. Ce projet de revitalisation de Dieulefi donc, sera porté en lien avec la communauté de communes avec qui nous avons rédigé cette candidature. Et si Dieulefi est retenu, les habitants et les entreprises du territoire qui portent des projets de renouvellement urbain, de rénovation, etc., pourront avoir accès au financement et aux accompagnements proposés par ce programme. Voilà, on a aussi un dossier de candidature qu'on peut vous transmettre et qu'on voulait éventuellement aussi mettre à disposition sur le site de la mairie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette candidature? Pas de questions?
Je voulais juste dire un petit mot sur la quantité de travail pour mener à bien ces dossiers. C'est un énorme travail et je voulais remercier toute l'équipe des élus et notamment Camille qui a beaucoup œuvré et toute l'équipe des agents parce que on est allé combien de fois on est allé voir Gisèle pour lui demander mais ça coûte combien et l'évolution sur plusieurs années et qu'est-ce qu'on peut dire sur tel et tel chiffre. Donc bravo parce que il y en a une troisième après, hein, une troisième candidature, et il y a eu un boulot énorme de fait. J'espère que ça qu'on en aura les fruits.
Oui, je vais encore poser une question en matière financière. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semblait avoir entendu le sous-préfet nous dire que les petites villes de demain, ce n'est pas eux qui avaient l'argent. Et que, par contre, ils nous orientaient, ils nous disaient où on pouvait aller trouver, etc. C'est bien ça, non? Ou je me suis trompé?
En fait, dans les 78 mesures, il y a des mesures de financement, donc d'accès à des prêts, éventuellement à des subventions, par exemple pour une maison France Service. Si on est une petite ville de demain, on a 30 000 euros pris en charge pour la création d'une maison France Service. Donc voilà, en fait, il y a 78 mesures qui vont correspondre à nos projets. Et dedans, il y a par exemple aussi le financement d'un chargé de mission pris en charge, donc avec à 25% de base. Et si on travaille sur une opération de renouvellement urbain, donc qui serait au niveau de la communauté de communes, il y a 50% en plus. Donc ça, c'est une mesure parmi les 78.
Au fur et à mesure qu'on faisait ce dossier, on se disait, mais c'est incroyable. Alors, peut-être pas les 78, mais il y en a quand même sûrement 50, où on se disait, mais elles sont faites pour nous, ces mesures. Alors après, c'est vrai que le financement n'est pas toujours follement clair, mais en tout cas, ça nous mettra en avant prioritaire sur un certain nombre de dossiers. Et puis, on aura, si tout va bien, quelqu'un qui pourra gérer tout ça, un chargé de mission sur ce projet.
On peut dire aussi qu'on a été soutenu par la députée qui nous a bien conseillé de répondre à cet appel à projet.
Un chargé de mission qui nous aidera à aller chercher, etc. Hein, voilà. Ça, c'est un point très important, je pense.
J'ai plus en tête, même si on a fait donc un tableau avec toutes les actions prévues correspondant à chacune des mesures en face du programme, mais voilà, c'est une des mesures, le chargé de mission, et dedans, il y aura aussi des accès à des financements. Voilà. Ok. Je vous propose de passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre cette candidature? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Ah. Bon, qui est pour? Merci.
Donc, maintenant, on arrive à la troisième candidature. Donc, là, qui est la conjonction entre notre souhait de réfléchir à la résilience alimentaire de notre territoire. On a fait le constat qu'il y avait quasiment plus d'agriculteurs, même s'il y en a certains en cours d'installation, mais on sait qu'en France, on a une capacité de 3 jours d'autonomie alimentaire. On sait qu'il va y avoir des crises, d'autres crises à venir. Et donc, on est très préoccupé par cette capacité donc à subvenir à nos besoins alimentaires. Par ailleurs, on a rencontré une association qui s'appelle les Greniers d'Abondance, qui ont écrit un livre notamment qui s'intitule « Vers une résilience alimentaire » et qui s'adresse spécifiquement aux communes. C'est tout un déroulé des points importants à considérer pour avoir cette capacité à subvenir à nos besoins alimentaires. Et donc nous avons rencontré cette association qui avait déjà répondu à un appel à projet, un POPSU, donc qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, qui avait répondu déjà à un POPSU territoire avec le Grand Angoulême par le passé. Donc elle a déjà cette compétence d'avoir travaillé sur une grosse agglomération. Et cette année, puisqu'il y a chaque année il y a un POPSU territoire, cette année le thème de ce POPSU est « Petites villes et campagnes au cœur d'un nouveau récit territorial ». Donc cette association qui travaille avec le laboratoire rural Lyon 2, d'études rurales sur Lyon 2, s'intéresser justement à trouver une petite commune pour pouvoir travailler sur ce sujet de la résilience alimentaire, mais à l'échelle d'une petite commune. Et donc, nous avons candidaté en connaissant leur projet. Ils avaient 6 communes en vue et apparemment, nous avons été celles qui correspondaient le mieux à leur recherche, puisqu'on a déjà mis en place certaines choses. On a quelques acteurs, des jeunes en cours d'installation, en recherche de terrain. On a quelques outils de distribution déjà mis en place. On a aussi un partenariat, on est soutenu sur ce projet de résilience alimentaire au niveau de la communauté de communes. Il y a même le parc des Baronnies qui s'intéresse énormément à cette réflexion et qui nous soutient dans cette démarche. Nous avons candidaté auprès de cette association. Et on aimerait mener ce projet de recherche-action avec eux et avec le laboratoire rural de Lyon 2 pour, pendant un an, faire un diagnostic de toute notre capacité à pouvoir aboutir à cette résilience alimentaire et à la fois de montrer les leviers d'action possibles pour le mettre en place. Et après, il y aurait une restitution en fin d'année avec aussi un plan d'action, évidemment, à 3 ans, 6 ans et 2030. Cet appel à projet nous permettrait d'avoir cet accompagnement, donc gratuit pour nous. Donc c'est c'est une demande qui porte sur 30 000 euros pour ces chargés de mission, enfin ces chargés de recherche-action, qui sera à notre disposition toute l'année 2021. Avec un travail avec les élus, les acteurs locaux liés à l'alimentaire et à l'agriculture, avec la communauté de communes, évidemment. Est-ce que j'ai à peu près tout dit? Est-ce que vous avez des questions? Ça va peut-être me faire venir une demande.
J'ai toujours une difficulté avec ce terme de résilience, qui est apparu il y a 2 ou 3 ans, et derrière lequel on peut mettre un petit peu tout ce que l'on veut. Alors, est-ce qu'à la place de résilience, on pourrait dire que c'est un renforcement de l'autosuffisance alimentaire d'une petite ville, ou du retour à l'autosuffisance? Non, c'est ça, je blague pas, hein, je me pose vraiment la question. Hein.
Alors, on peut toujours mettre d'autres noms, en tout cas c'est le terme consacré, puis de toute manière, un, c'est le titre de leur livre, on ne va pas changer leur titre de livre, et deux, c'est le titre de leur projet de recherche, on ne va pas le changer. Non, mais si tu veux, tu peux y mettre...
Je ne vais pas changer quoi que ce soit, je cherche à comprendre...
La définition dans le dictionnaire actuel, c'est notre capacité à surmonter un choc, une crise, donc, et là, en l'occurrence, liée à l'alimentation. Je me souviens bien avec les métaux, et après les psys se sont appropriés ce terme. Donc c'est l'aptitude à résister à un choc, et l'endroit de fragilité devient l'endroit le plus costaud. C'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, je vous propose donc... Pour nous, ça va être du temps d'investissement, comme chaque projet, disons, du temps de travail, mais pas de frais financiers. Zéro.
Pas de frais financiers, mais un téléphone, etc. Un bureau.
Pour faire plaisir à notre ami Alain, qui fait un petit peu de mécanique aussi. Pour mesurer la résilience des matériaux, on utilise une machine de test qui s'appelle un mouton de Sharpie. J'ai fini ma parenthèse.
Autre proposition.
Donc en tout cas, pour répondre à la question, puisqu'elle n'a pas été enregistrée, est-ce que le coût est vraiment de zéro? Le coût pour la commune est de zéro. En fait, ça va être une...
La personne va nous aider à établir notre stratégie d'action et on ne la payera pas pour le travail qu'elle va faire puisqu'elle sera payée grâce à ce programme.
Sachant, je rajouterai un petit mot parce que j'ai été à un certain nombre de réunions par vidéo avec le chargé de recherche. C'est un sociologue, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un agronome ou un technicien de faire pousser des carottes ou des salades. C'est un sociologue, c'est-à-dire qu'il va aborder cette question de la relocalisation de l'alimentation, on peut dire ça, de la production alimentaire, sous l'angle des avis des uns et des autres. Il parle de récits, donc de se raconter une nouvelle forme d'aventure pour Diolfi autour de ce projet. Je trouve que c'est vraiment, enfin, pour l'avoir entendu plusieurs fois, il était au Canada, donc on se parlait de loin, mais c'est passionnant. Enfin, c'est un projecteur très particulier, mais je pense qu'on va découvrir une autre manière de voir ce problème. Il vient passer 6 mois, je crois, depuis. Hein. Ouais,
ça, donc. Par exemple, il va lancer une invitation pour faire un débat. Où est-ce qu'il va aller voir tous les acteurs pour faire un sondage précis de...
Alors.
Moi, ce que j'ai peur là-dedans, c'est que si c'est sur le fonctionnement participatif, collaboratif,
qui vont être acteurs et donc on n'aura qu'un son de cloche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ben, dans son fonctionnement, oui, mais une étude, si, puisque c'est en plus, comme l'a expliqué M. le maire, c'est d'un point de vue sociologique. Donc, il faut voir, enfin, dans l'étude, il faut voir tout le monde. Est-ce qu'il va aller voir tout le monde, enfin tout le monde, des familles représentatives, de socio-professionnels, ou si c'est simplement, je vous invite à débattre sur tel et tel sujet, et là, je pense que le résultat peut être faussé.
Alors, en fait, la première phase, ça va être un recensement des acteurs. Donc, les producteurs, les magasins, les associations, pas forcément au niveau des citoyens, mais des acteurs de systèmes alimentaires.
Ensuite, aussi un recensement des menaces spécifiques de notre territoire. Par exemple, est-ce qu'on perd nos terres agricoles? Est-ce qu'on a un problème avec la ressource en eau? Comment on s'approvisionne en engrais, etc. Donc en fait, ça va être un diagnostic sur l'ensemble de chaque maillon du système alimentaire, depuis les intrants agricoles, en passant par toutes ces phases-là. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de participatif avec les citoyens, etc. Et ensuite, à partir de là, voilà, il y aura une enquête pour, au niveau de ces différents acteurs, quelles pourraient être les pistes d'action à mettre en œuvre pour renforcer cette résilience alimentaire. Et c'est à la fin de tout ce processus qu'il y aura une restitution auprès de la population. Et c'est là où il y a la proposition de récit, de un peu quelque chose de ludique, pour que ça soit approprié au niveau des citoyens.
Si, je comprends mieux.
On a voté non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ce projet ? Donc, tout le monde est pour. Merci. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Oui, pardon. Bon, donc.
Merci, Laurence.
Oui, donc moi, je vais vous parler d'un autre projet qui, lui, coûtera des sous. Je suis désolé. Ouais. Bon, il s'agit des archives municipales de la commune de Dieulfi, qui sont actuellement, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les locaux de la mairie, actuellement les archives sont dans la cave. Alors c'est un local qui est humide, qui a été jugé véritablement impropre par les archives départementales et qui est pas possible, qu'on peut pas mettre aux normes de par sa situation. Donc ce local donne pas satisfaction, également en termes d'accessibilité. Le volume de stockage est trop faible. Et puis, il est très humide, le renouvellement d'air insuffisant. Alors, considérant cette situation, le projet propose de créer un nouveau local d'archives municipal dans un bâtiment extérieur à la mairie. Alors, l'objectif étant de disposer d'un volume adapté répondant aux normes en vigueur concernant la conservation des documents. Alors, le choix... a été fait par la municipalité précédente, donc de déménager ses archives. Et nous, on a, après des divers discussions, on a estimé qu'il était préférable d'entériner cette décision. Le projet était déjà bien entamé. Donc, a priori, on va continuer ce projet. Donc, tout en conservant le local actuel dans un rôle de stockage tampon pour les documents en attente de classement ou régulièrement consultés par les services, c'est-à-dire que les documents qui serviront tous les jours ou qui seront récents resteront dans ce local, mais les archives seront très vite transférées dans le nouveau local archive. Voilà. Les règles pour l'aménagement des bâtiments d'archives de la Direction des archives de France, 3e révision, octobre 2009. Alors ce sont ces fameuses règles qui ont servi à mettre en place ce projet. Alors il faut que je précise, le directeur des archives départementales nous a cet automne sommé de réaliser les travaux. C'est-à-dire que lui, il a estimé que l'état du local actuel d'archives était tellement déficient, il nous a mis en demeure d'entamer les travaux le plus rapidement possible, voire avant la fin de l'année, pour pouvoir, sinon la menace était de mettre les archives au département. C'est-à-dire qu'il récupérait toutes les archives et il les emmenait aux archives départementales. Donc pour nous, il était clair que la place des archives de Diolfi, c'est à Diolfi. Et d'autant plus qu'on a une archiviste très compétente. Donc le futur local, une surface de 92 mètres carrés, sera situé dans le bâtiment de l'ancien collège, à vocation multiple. Les deux pièces de l'aile nord du bâtiment, adjacentes à la médiathèque municipale, au rez-de-chaussée, sont dédiées à ce projet. Donc je pense que vous voyez tous où c'est situé, hein, c'est-à-dire que juste dans le prolongement, au nord de la médiathèque, en rez-de-chaussée. L'ensemble archives médiathèque sera isolé du reste du bâtiment par un dispositif coupe-feu. La partie archives sera constituée de deux pièces. La première, équipée de rayonnage mobile, sera dédiée à la conservation des documents des archives avec ventilation et gestion des rayonnements UV, c'est-à-dire totalement aux normes actuelles du stockage des archives. Et la seconde partie sera utilisée comme local de travail de l'archiviste avec une liaison vers la médiathèque, qu'il puisse y avoir interaction avec les personnes susceptibles de souhaiter consulter ces archives, sous forme d'un comptoir qui permettra le passage des documents pour leur consultation par le public. Alors, on a une archiviste qui est très dynamique, qui souhaite d'ailleurs faire du travail, travailler un peu avec éventuellement avec les profs pour impliquer les enfants sur l'impact historique et l'intérêt que peut avoir la consultation d'archives. Donc ces travaux seront attribués dans le respect du Code des marchés publics à l'issue d'une procédure de type MAPA, donc marché à procédure adaptée. Cette opération intégrée au budget primitif de 2020, donc qui a été votée avant que nous arrivions aux affaires, à hauteur de 195 803 euros TTC, pourra bénéficier de subventions État et Régions qui permettront de réduire le reste à charge pour la commune, les aides attendues pouvant aller jusqu'à 172 903 euros, 92 500 DSIL de l'État et 80 433 euros de la région. Alors pour ces 80 433 de la région, c'est une demande que nous avons faite, nous, qui n'avait pas été faite avant. Donc nous avons souhaité faire, par rapport évidemment aux difficultés financières de la commune, donc pour l'instant, cette demande a été déposée au mois d'octobre, et nous n'avons pas encore de certitude sur ce financement. Voilà. Donc j'espère, a priori, que nous obtiendrons cette subvention. Hein. De toute façon, la somme avait été budgétée. Voilà. Donc je propose au conseil municipal de donner son feu vert pour la réalisation de cette opération. Voilà, en précisant que l'appel d'offres est en cours parce que bon, on a estimé que les résultats de la consultation n'étaient pas tout à fait satisfaisants par rapport à la concurrence. Donc il va y avoir un lot qui va être remis en adjudication. Voilà. Donc
Oui, je n'ai pas très bien compris.
Oui, est-ce que vous avez des questions ?
Ce qu'apportait cette nouvelle délibération par rapport à l'ancienne qui existait. Et qui, voilà, pourquoi une nouvelle délibération ? C'est peut-être ce que tu viens de dire là, à la fin. Une nouvelle, je ne sais
oui,
pas.
Oui, c'est-à-dire
que
le...
Tu peux apporter des précisions.
Voilà, c'est ça. Le budget a déjà été délibéré, mais nous, nous demandons si le conseil donne son aval pour le nouveau train de. Enfin, les nouvelles demandes de subvention. Voilà. Et en particulier, bon, si le projet n'est pas pérennisé et que. Bon, voilà. Oui. Bien sûr. Voilà.
C'est ça. Yep.
C'est c'était le vote du conseil municipal de mars. Mais en mars, vous avez voté des orientations, il n'y avait pas de choses actées.
Il n'y avait pas de délibération spécifique pour ce projet-là.
Non.
Il y avait un budget, donc dans le budget, il y avait une place pour les archives, mais il n'y avait pas de délib, en fait. Voilà. On attend, hein.
On doit faire les travaux ou lancer le programme pour la fin d'année. Pour la fin d'année, il ne faut pas arriver, on n'aura pas les subventions.
La commission du conseil régional qui est chargée d'accorder ou pas la subvention était prévue le 26 septembre et a été remis au 18 décembre. Donc on a un accord de principe de l'élu chargé de ce dossier, mais on attend évidemment d'avoir les sommes. Alors comme en plus l'appel d'offres, il y a un lot qui n'a pas été satisfaisant, eh ben on va profiter de ce temps qui sera du coup pas perdu.
Mais on dispose de la décile, 92 500, ils sont acquis ceux-là.
Ça, ils sont acquis.
Auprès de la région.
C'est ça.
Et cette seconde demande de subvention n'est pas encore sûre. On espère l'avoir, mais de toute façon, la totalité des travaux a été budgétée.
Voilà. C'est bon. Voilà. De toute façon, nous, notre problème, c'est qu'on a, on a cet ultimatum des archives départementales. C'est-à-dire que, en fait, on a été mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on est obligé de déménager les archives. C'est-à-dire que si les travaux, alors avec le Covid, on va négocier probablement quelques mois supplémentaires, mais si les travaux ne sont pas commencés. Et commencé en 2020 et réalisé en 2021, théoriquement, les archives étaient déménagées. C'est-à-dire que Dieulfi perdait ses archives.
Mais je ne veux pas c'est malheureux parce que ces archives, on en parle quand même depuis.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. Absolument. Oui. Je pense qu'il y a un moment que ça devrait être fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, enfin, par rapport à ce que tu dis, nous, on a dit, bon, de toute façon, ce projet. On espère avoir ce financement complémentaire. Après, financer, pas financer, il faut le finir, il faut le faire. Voilà, c'est réellement d'utilité publique.
Nadia, Alain.
Moi, je voulais juste dire que j'étais très contente que ce projet se finalise, ou en tout cas qu'il soit en passe d'être finalisé, parce qu'on le réclame effectivement depuis plusieurs années. Qu'on a la chance aussi d'avoir une archiviste, Magali, qui est excellente dans son rôle et qui va faire un travail de collaboration avec tous les autres villages de la communauté de communes, et que donc ça c'est très bien. Et je voulais poser une question sur la numérisation, parce que dans mon souvenir, quand j'étais à la dernière municipalité, il y avait un projet qui était en cours de numérisation des archives et Magali avait interrompu ce travail qu'elle faisait. Je me demandais si elle l'avait repris et où on en était de cette numérisation. Mais je ne sais pas si...
Non, ce projet n'a pas bougé parce qu'il y avait des incidences financières importantes. Donc pour l'instant, on en est toujours là. Ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux.
Alain Chauville avait levé la main.
Oui, il y a deux choses. Il y a un déménagement des archives avec des subventions à obtenir que l'on n'a pas encore. Donc, la question à éclaircir, c'est est-ce que si on n'a pas la totalité des subventions espérées, on déclenche quand même le chantier ? Alors qu'il y a un choix simple, c'est de ventiler cette pièce, d'y mettre un déshydratateur, et puis c'est tout. C'est... Mais je ne dis pas de remettre en cause le déménagement, je dis simplement, il faut savoir si la commune a beaucoup de sous, pas beaucoup. Alors là, c'est ou une opération à 20 000, et regardez bien, est-ce qu'on a estimé le coût, excusez-moi, je suis dans mon rôle de surveiller le budget, est-ce que pour la salle de l'archiviste, est-ce que les dépenses prévues pour cette salle ont été budgétées? C'est combien?
Les dépenses de fonctionnement, tu veux dire?
Non, cette salle, il doit y avoir des meubles, il doit y avoir des aménagements dans cette salle, j'imagine. C'est pas dans la consultation actuelle?
Si.
Il y a peut-être...
Si, les meubles sont dans la consultation. C'est prévu dans le montant des travaux, les étagères qui bougent, là, sur le bureau. Si, c'est prévu.
Alors là, moi j'aimerais qu'on me le montre, parce que moi j'ai regardé ça avec attention, et j'ai pas vu.
Il y a un lot...
Si quelqu'un l'a vu...
Marc, tu confirmes?
Non, ce qui est prévu, le mobilier, c'est le
local du stockage. Voilà, notamment les étagères de boulettes qui sont...
Je ne remets pas en cause, je parle du local de l'archiviste. Je ne parle pas du local de stockage des archives. Le local de l'archiviste, est-ce que son mobilier, alors peut-être que ce sera un don de la... Un don de je ne sais pas qui d'autre qui va... Mais est-ce qu'il y a un budget qui est prévu? Voilà, c'est tout. C'est simple. J'ai déjà posé la question par écrit, j'ai toujours pas la réponse. Voilà.
Voilà, alors, en ce qui concerne donc ta question, en fait, elle porte sur le bureau de Magali.
Oui, c'est un local qui fait 30 mètres carrés, voilà. Il y a du chauffage...
Mais à la mairie, actuellement, Magali, elle travaille pas par terre, hein, donc elle a un ordinateur, elle a un bureau, elle a une chaise, elle a du matériel pour travailler. Enfin, c'est pas...
Il y a des meubles pour ranger des documents plats.
Bien sûr.
Les meubles pour ranger des documents plats, ils sont où?
On a ce qu'il faut. Le poste de travail de Magali va être déménagé à l'ancien collège.
Donc, il n'y a pas de dépenses pour ce local. Eh bien, c'est noté.
Voilà.
Je le note.
D'accord.
Ça va. En tout cas, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il faut impérativement attaquer le chantier tout de suite sans les subventions, ou est-ce que pour ne pas perdre les archives, on trouve une solution d'attente qui pourrait être simplement de déshydrater ce local pour le rendre plus sain. Voilà.
Yep. Oui,
Bon, s'il y a des spécialistes qui savent que les enzymes pour déshydrater ne sont pas efficaces, ma foi.
Je voulais juste dire que l'objectif, et M. Quinqueton me faisait la remarque, je faisais semblant de ne pas le... De ne pas regarder, mais l'objectif c'est 75%, c'est-à-dire que, on va tout vous dire, on a découvert il n'y a pas très longtemps que la décile, on pensait avoir 46 000 euros, et on a découvert que Laetitia Heinrich avait demandé en 2018 une première tranche de 46 000 euros. C'est pour ça qu'on a demandé 80 000 à la région, parce qu'on pensait avoir que 46 000 de l'État, de la décile. Et en fait on a 92 000. Donc les 80 000 euros, j'ai prévu demain d'appeler le conseiller régional, monsieur le vice-président Claude Orias, pour lui dire, écoute, on a demandé 80 000, mais en fait, c'est pas tout à fait 80 000 dont on a besoin, parce qu'ils ne vont pas nous les donner, ils ne peuvent pas nous donner plus que, que 80%, 75%, 80%. Donc l'objectif, c'est d'avoir 75% sur ce projet. Et moi, ce que j'ai dit quand on a eu des discussions autour de ce projet, c'est qu'il fallait qu'on arrive à les obtenir. Je trouve qu'il n'y a aucune raison que les financeurs ne nous aident pas sur un projet comme ça. Après, j'espère que la région va suivre.
Ouais.
Après, sur les dates de travaux, le type, il n'y a pas une loupe à regarder la date, le tampon du début des travaux. Si on a les subventions, si on a commencé les appels d'offres, et si on est, s'il y a un lot qui n'est pas encore attribué, il va bien comprendre qu'on a la volonté et que ça va se faire. Et si ça démarre en février, ça démarre
en février.
Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se, se prendre le chou pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et donc la région, je demanderai à ce que le complément de cette demande de 80 000 soit déplacé sur le skatepark. Parce qu'on a aussi ce projet derrière et qu'il faut que la région nous aide aussi là-dessus. Voilà.
Oui, je voulais aussi, puisqu'on est dans la transparence, évoquer les débats qu'on s'est autorisé à avoir autour de ces archives sur la question de l'implantation. Bien entendu, ça ne remet pas du tout en question tout ce qui vient d'être dit et la nécessité absolue de déménager les archives. Mais on s'est dit, est-ce que finalement c'est le bon lieu ? Et d'autant plus qu'il y a ce projet de maison des associations sur l'ancien collège qui posait quand même la question de, et à la fois la nécessité de penser un projet global et cohérent, et puis d'autre part de se dire comment on échelonne des travaux et comment on les rend compatibles de sorte qu'ils ne soient pas en opposition ou qu'ils ne génèrent pas des surcoûts importants sur les phasages. Et donc, on a tranché sur cette question en disant que de toute manière, il y a ce côté impérieux à le faire. Et puis que finalement, on prendra une grande attention à ce que finalement les différentes étapes de rénovation du bâtiment de l'ancien collège puissent être articulées et qu'il y ait des réservations en termes de gains techniques, etc., pour que ce soit articulable. Et puis, voilà, tant pis s'il y a des petits surcoûts. En tout cas, c'est la nécessité du timing.
Ouais. Vous avez probablement remarqué qu'à un moment donné, j'ai mentionné le plafond coupe-feu qui sera réalisé au-dessus à la fois des deux locaux d'archives et de la médiathèque. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue de l'isolation et en particulier de la protection incendie, des systèmes d'évacuation, etc., les archives sera réalisé comme une entité à l'intérieur de l'ancien collège. C'est-à-dire que c'est une boîte à l'intérieur de la boîte, une boîte indépendante qui aura sa sécurité propre pour ne pas gréver tous les projets qui pourraient être faits après sur le reste du bâtiment. Voilà, donc on a été vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire que toute la liberté d'aménagement du reste du bâtiment sera conservée puisqu'on sera conforme aux normes coupe-feu entre les deux parties.
On vote.
Oui, je sais pas, il n'y a plus de questions. C'est vrai que nous on a beaucoup. Je dois reconnaître qu'on a beaucoup, cogité autour de ce projet, que c'est assez compliqué. Mais bon, voilà, parce qu'on était un peu dans, comme tout le monde, devant le fait accompli. Mais voilà, je pense que le travail a été fait. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Merci.
Donc nous avons deux abstentions sur ce projet, Eric. Eh bien, tous les autres. Alors, qui est pour ?
Merci. Alors, je vais vous parler maintenant des travaux en régie. Une petite explication technique sur les travaux en régie. Les employés communaux, les services techniques, quand ils font les travaux, je vais prendre un exemple, parce que c'est plus simple. Les services techniques sur les archives. On va prendre les archives. Les services techniques, on se dit, finalement, ils savent très bien peindre. Ils savent faire ça très bien. Donc plutôt que de demander à une entreprise de peindre, on va demander à Fred, à Guy et à toute l'équipe, à Jean-Luc, de faire de la peinture. Ça nous permet, une fois que les travaux sont finis, on note le nombre d'heures qu'ils ont passées, on note le nombre de pots de peinture qu'ils ont passés, et ces travaux qui étaient faits dans le cadre de leur travail habituel vont pouvoir être considérés comme des travaux en régie. Ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut récupérer la TVA sur les pots de peinture en question. Et le deuxième, c'est qu'on peut financer leur travail avec la subvention qu'on va bien finir par obtenir de la région et le financement de la DSIL de l'État. C'est-à-dire que ça permet, dans le meilleur des cas, de financer une partie de nos employés avec des subventions, et en tout cas, dans tous les cas, de récupérer la TVA. Donc, est-ce que c'est... Sur la théorie, est-ce que c'est clair? Ben, c'est
même si quelque part c'est vrai, ça se dit pas.
C'est tout à fait ça se fait.
Dire, hein. Ben, moi, je suis pas là pour payer aux employés. Je suis là pour payer des projets, mais pas des employés.
Ben, si c'est les employés qui font une partie du projet, c'est de toute façon des petites parties. Hein.
Mais oui, non, mais
c'est pas illégal.
On est bien d'accord, mais un financeur ne paiera jamais tes employés. Il te paiera ton projet. Donc, c'est des choses qu'on a le droit de dire, mais jusqu'à un certain point.
En tout cas, on a le droit de le faire.
Donc,
ça ne me gêne pas de le dire.
Ah oui, voilà. Il ne faut pas que ça dépasse certaines...
On est d'accord. Là, par exemple, sur les travaux en régie que je vais vous proposer, il y a l'aménagement d'une pergola. Alors, il paraît que ce bruit-là qui arrive de temps en temps, c'est lié au portable. Donc, je n'accuse personne, mais il faut peut-être éteindre les portables, tu vois. Stéphane m'a dit l'autre jour, parce que c'est arrivé avec la Comcom, c'était lié au portable. Donc on peut essayer d'éteindre. Oui, monsieur Quinqueton, sur le...
Non, juste l'exemple, je suis désolé, mais l'exemple que vous avez pris est discutable parce que vous parlez de travaux de peinture. Il faut bien que ça soit des travaux qui aient une nature d'investissement. C'est de la création. Si on refait peindre un bâtiment, ça ne pourra pas passer dans des travaux en régie. Par contre, si on crée, on fait un mur, les employés communaux aident à l'aménager, un mur, etc. Il faut qu'il y ait une nature investissement, une nature création. Et effectivement, c'est là où ça rentre dans un projet. Il faut, dans un projet d'investissement, il faut que ça soit de la création.
Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Dans les travaux en régie qui ont été faits cette année, il y a à la piscine l'aménagement d'un espace détente et la création d'une pergola au snack de la piscine. Donc c'est les employés qui l'ont fait. On n'avait pas demandé de subvention, donc on ne touchera rien comme subvention. Mais si on avait demandé une subvention, on aurait mis ces travaux-là de manière tout à fait réglementaire et autorisée dans ces travaux. Voilà, donc en 2020, il a été effectué 38 517 euros de travaux en régie. Vous avez le chiffre derrière vous, c'est le total de droite. Donc la piscine, le gymnase, la mairie, la mise en sécurité de la voirie, l'école primaire, le bâtiment de l'école primaire avec la création d'un studio. Et puis derrière, il y a donc le total 38 517. Donc en fait, il faut, pour que ces travaux en régie soient actés, il faut prendre une décision budgétaire modificative, transférer de section de fonctionnement au chapitre 72, travaux en régie, pour 38 518, les mettre sur les dépenses au chapitre 23, virement à la section d'investissement, et les mettre en recette, donc en section d'investissement, 38 518 euros, 17 000 en immobilisation corporelle et 21 081 en immobilisation en cours. C'est un jeu budgétaire entre la section d'investissement et la section de fonctionnement. Ça va ? C'est bien d'avoir un professeur à côté. voilà. Donc, qui est pour ? Je pense qu'on a l'unanimité. Quelqu'un s'abstient ? Quelqu'un est contre ? Je vous remercie. Et je passe la parole à Magali pour la convention pour l'hébergement des travailleurs.
Alors, en vertu du Code de la construction et de l'habitat, les communes touristiques comme nous sommes à Diolfi ont pour... obligation de signer une convention avec l'État. Et cette convention a pour thématique le logement des travailleurs saisonniers. Donc un gros travail a été fait, tout à la fois de diagnostic, mais aussi d'enquête auprès des hébergeurs et des employeurs de travailleurs saisonniers pour s'assurer que leurs conditions de logement étaient satisfaisantes. Merci. Était satisfaisante tant sur la qualité que sur la quantité et le résultat, et qu'à Diolfi, nous sommes bien placés. Cette convention est signée pour 3 ans. Elle fera l'objet d'une nouvelle convention à cette date-là. Mais pour le moment, il se trouve que, je vais vous le lire exactement, voilà, les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers, donc dans le plan, hein, excusez-moi, les besoins en logement pour les travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune sont satisfaits. Ainsi donc, je vous propose de voter pour une délibération qui nous dit que, à Delphi, tout va bien pour les saisonniers quand ils viennent travailler en été. C'est plaisant quand même. C'était facile, ouais. Merci Christian, hein, la prochaine fois tu me fais la même. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci à tous.
Alors là, on va parler d'une demande de subvention. On a demandé à ce que ce point de l'ordre du jour soit rajouté parce qu'il ne l'était pas dans le premier envoi. C'est une demande de subvention, donc je pense que personne... Vous vous êtes exprimé en disant qu'il n'y avait pas de problème. On a appris récemment que les événements culturels qui avaient été financés cet été pouvaient être en partie pris par des subventions départementales. Donc on a fait la demande et Vanessa va nous l'expliquer.
Donc c'est dans le cadre des manifestations et des animations qui ont été donc menées par la municipalité cet été. Donc la première a été le Festival de la Terre, donc la Fête de la Terre, qui donc a eu un coût de 895,67 € hors taxe. Il y a eu également les Dimanches à la Baume, donc pour un montant de 8320,20 € hors taxe. Et également donc la danse avec la compagnie de Juvalpic, qui est donc le CCNR de Rieux-la-Pape, pour 513,60 € hors taxe. Donc ceci nous a mené à un montant dépensé par la commune de 9 700,9 € et 47,47 €. Donc vous avez apparemment un zéro de trop sur le petit dépliant que vous avez reçu, puisque vous avez 9 700,09 € et 47 €. C'est pas 0,47, c'est 47. Donc il y a juste un décalage de centimes sur le papier. Voilà, celui-là est bon. C'est sur le tout petit qu'on a là en plus, sur celui-ci. Il y avait une erreur, je crois que ce n'est pas sur celui-là. C'est sur celui-là, on m'a montré qu'ici, il y avait une... Sur le tout petit, bon, ce n'est pas grave, c'est juste un décalage de centimes. Et donc, c'est pour ces montants que donc, nous faisons une demande de subvention. Et donc, c'est juste cette délibération que je veux vous soumettre. Est-ce que quelqu'un a des questions?
Oui, on ne fait pas des demandes de subvention ligne par ligne.
Non. Bon. On fait un global.
Je suggère que la délibération fasse apparaître le chiffre total.
Il y est, 9 709,47.
Avant les trois.
Répartis.
Avant le Festival de la Terre.
Au-dessus, c'est au-dessus, Jacques. En dessous, c'est juste un explicatif du montant. C'est les détails.
Il a prouvé.
Oui, ça aurait pu être en dessous, il est vrai. Donc pas de questions, plus de questions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.
Merci Vanessa. Alors ensuite, il reste donc le... Je vais vous informer des décisions que j'ai prises en application de l'article L2122-22 du CGCT. Donc la première décision, elles sont là. C'est génial. Elles arrivent. Là, ça arrive. 2010. Je veux dire là, c'est pas mal. Donc la première décision concerne la commande. Je vois plus rien, pour le coup. La commande pour la démolition du bâtiment du Mi-Club qui avait été décidée, en fait, on s'est rendu compte un peu juste avant la démolition que c'était peut-être intelligent de réfléchir un petit peu avant de démolir cet endroit qui avait d'abord le mérite d'exister, qui ensuite représentait une forme d'architecture assez originale et que donc c'était peut-être un peu dommage de l'aplatir. Je vous rappelle qu'il a quand même été désamianté, donc ça, le travail a été fait, mais que par contre, on a discuté avec l'entreprise qui devait, Marc a fait ça très bien, discuté avec l'entreprise qui devait démolir, et pour dire, on réfléchit un petit peu avant de savoir ce qu'on va faire avec ce bâtiment. La décision suivante concerne la modification de la régie concernant les cantines scolaires et le service périscolaire primaire. C'est une question de cautionnement et d'assurance de cautionnement. Donc les régisseurs ne sont plus obligés réglementairement de s'assurer pour les sommes qu'ils mettent dans les recettes de la commune, c'est ça ?
Le cautionnement, ce n'est pas une assurance, c'est l'assurance vient en plus. Il n'y en a pas pour les régisseurs de la commune parce que c'est des montants, c'est pas obligatoire. Le cautionnement, ça permet à la collectivité de se garantir contre un trou de caisse sur une régie. Et effectivement, c'est pas une régie permanente, donc en l'occurrence, donc il n'y a pas d'obligation de payer un cautionnement pour les régisseurs. Donc en fait, le but, c'est simplement de modifier l'arrêté constitutif de la régie.
Jusque-là, il y avait un cautionnement, il n'y a plus besoin. On a régularisé une situation qui n'était pas très claire. Voilà, ça concerne le service périscolaire et le service périscolaire primaire et le service périscolaire de la maternelle. Ensuite, j'ai commandé une entreprise des pompes funèbres des compagnons pour reprendre les concessions abandonnées au cimetière pour la somme de 3 866 €. J'ai signé pour la commande de l'achat et l'installation d'une structure jeu d'enfants dans la cour de l'école maternelle par l'entreprise Pro Urba, pour un montant de 12 964 €, installation qui a été faite pendant les vacances de la Toussaint, donc les enfants de la maternelle ont un jeu tout neuf. Une commande de granulés de bois pour la chaudière alimentant la halle, pour une somme de 2 625 € auprès de Chastan Bois Énergie. La commande pour le remplacement des courroies et les cales de réglage et d'usure du bras télescopique du tractopelle, auprès de l'entreprise Manutention Tricastine, pour 1 045 €. Une commande de fioul pour les sites du groupe primaire du Jeanché auprès de Caron-Basset Fioul pour un montant de 8 330 €. L'engagement de la commune à candidater à l'appel à manifestation d'intérêt, on en a parlé tout à l'heure auprès de l'ADEME. La commande pour la réfection du muret de la rue Zigzag, une voiture qui a reculé dans le muret qui était quand même très fatiguée et qui l'a largement abîmée. Donc l'assurance a payé une partie. L'assurance de la voiture qui a reculé a payé une partie, mais il nous en est resté une partie. Et donc, j'ai demandé à l'entreprise FMBAT, pour un montant de 1 703 €, de refaire ce muret. Il y a eu ensuite une commande pour la régularisation des montants engagés pour les frais d'études du plan local d'urbanisme. Alors, c'est une histoire un petit peu ancienne, mais enfin, c'est une régularisation pour un montant de 1 400 € auprès du cabinet d'études Latitude. Il y a eu ensuite une commande pour des travaux de réalimentation de l'éclairage public à partir du futur poste de la place Brun à La Rochette auprès des ZED, 4 137 €, et la commande pour la pose d'un fourreau destiné à l'éclairage public du secteur crèche de la piscine auprès des ZED pour 3 394 €. Avez-vous des questions sur ces dépenses, Madame?
Juste une petite correction, c'est pas des granulés qu'on a commandés, mais du bois déchiqueté.
Pardon, j'aurais pu le dire parce que je le savais, oui. Exact.
Là, c'était juste un détail par rapport au fioul. Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas appel, par exemple, à quelqu'un de la Comcom qui est sur Bouvière, qui s'appelle comment? Déjà Bonnet, c'est ça? Bonnet, plutôt que des gens d'Ancône. Ah, c'est ça la réponse? D'accord.
C'est le tarif? Marché public, on demande le tarif en début d'année et ensuite on leur prend. Sylvain ?
Pour ma part, juste une petite inquiétude concernant le Meet Club. Le laisser en l'état, très clairement, pour moi, c'est dangereux. C'est pas sécurisé. Les gamins courent comme des fous, là-bas au milieu, il n'y a plus de vide forcément pour les arrêter, mais par contre, on a des formes qui peuvent être dangereuses. Quoi. Donc si on doit le laisser comme ça, et c'est un choix, il faut à tout prix sécuriser, mais surtout pas le laisser comme ça. C'est bien parce que ça peut être un abri quand il pleut, mais ça peut être aussi source d'ennui, et voilà. Voilà. Donc ma demande serait de le sécuriser au mieux. Merci.
Est-ce que je réponds? On est très vigilant à faire extrêmement vite pour
élaborer un projet au niveau de tout le zonage skatepark Mill Club, cet espace-là. Ça va évidemment prendre tout son sens quand on travaillera sur la totalité de l'espace du Ginchet, donc avec l'école, avec la future maison d'association, etc. Mais on a bien conscience de l'urgence et donc on va s'y atteler en priorité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'ailleurs on l'a évoqué. Ce qui est certain, c'est que détruire le Mill Club, ça revenait à détruire quand même un élément du patrimoine. Il y a des gens qui disent, moi j'ai fait du judo au Mill Club, etc. C'était ministère des Sports, les années 70, il y a 1000 clubs pour les, qui sont à peu près les mêmes en France. Il y a déjà des études qui ont été faites d'archi, etc., qui sont assez sympas, je pourrais vous faire passer les liens. C'est évocateur d'une époque et du coup, on a fait le choix de le garder et on est conscient de l'urgence. Donc on réfléchit à son nouvel usage. Donc soyez bienvenus pour y réfléchir avec nous, surtout les sportifs que vous êtes. Mais c'est peut-être...
Ça va devenir, bien sûr, si on peut le garder tant
mieux.
Moi, ce qui me fait peur, c'est le...
C'est qu'il ne soit pas vandalisé, mais complètement. On est vraiment...
Mais pas forcément vandalisé, mais qu'un enfant soit passé.
Se blesse. Tu veux parler, Marc? Parce qu'on est un peu là-dessus. Alors qu'on est avec Marion, Marc, Fred et moi à travailler dessus, mais vraiment, sentez-vous les bienvenus.
Sylvain, on a eu un débat là-dessus. Moi, j'étais le premier défenseur, ce que tu dis. Et en fait, techniquement, c'est assez compliqué. On s'est posé. Alors, soit on le fait avec des. On ferme de manière métallique et ça a un coût. C'est un coût important. On s'était dit si on met du bois, ça peut être aussi l'occasion d'une vandalisation. Et s'ils réussissent à rentrer, c'est un endroit de squat potentiel. Donc, c'est assez complexe comme question. Comment faire pour que ça ne nous coûte pas trop cher dans l'attente, effectivement, d'un aménagement plutôt définitif.
Des kilomètres de barrières. Donc voilà, moi c'est uniquement ça, c'est le fermer. Quoi.
Est-ce que là on a enlevé tout ce qui était dangereux en termes, on a recontrôlé avec Marc tout ce qui était pointu, tout ce qui était grillage, etc. Donc là,
non,
c'est,
mais ça j'ai bien compris, mais
c'est au-delà de ça.
Comme le disait Magali, moi aussi j'ai fait du judo et j'ai pas le construire parce que je suis un peu petit, mais voilà, enfin, ce que je veux dire c'est que là ça forme. Je veux dire que tu vois bien, c'est que des pans coupés. Quelqu'un qui court, les gamins, tu sais comment ça fonctionne, ça court, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul, il aille s'ouvrir la tête. Et on aura gagné le gros lot, quoi. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, on connaît suffisamment de maçons, on a peut-être la possibilité, on a certainement ça en plus au service technique. Donc, c'est facile d'installer des barrières autour, dans un périmètre proche du mi-club. Après, voilà. Ouais, moi, ça me fait peur. Très clairement, ça fait peur.
Alors, du coup, pour répondre à ça, on y avait quand même pensé à mettre des barrières que la première fois on a visité... Voilà, pour imaginer. Après, on s'est aussi clairement dit, et pour connaître un peu les jeunes, des barrières grasses, les jeunes, ils les enlèvent, ils montent dessus, ils les décalent.
Ouais,
voilà. Donc c'est toute la question de savoir, voilà, est-ce que ça vaut le coup de peser, de mobiliser autant de barrières. Mais en tout cas, on entend et on va se poser la question. Oui, bien sûr.
S'il y a des barrières,
on entend.
Si les gens
oui. C'est bon.
On enlève la responsabilité de monsieur le maire. C'est ça qui est important. Hein. Sinon, c'est toi qui pars, tu auras des ennuis. Voilà.
Moi, je pense qu'on va peut-être pas régler le problème ce soir. Par contre, qu'il y ait une, je sais pas, un petit groupe autour de ceux qui y ont déjà un peu réfléchi, puis peut-être Sylvain, si tu veux t'associer à eux, hein, c'est vrai que ça, moi j'ai pas très envie de finir en taule, donc allez-y, bossez. Merci. Christophe.
J'avais une question concernant le mur qui a été endommagé. Je comprends pas pourquoi la commune a quelque chose à payer là-dedans. On n'est pas assuré là-dessus ?
Le véhicule était assuré, donc l'expert est venu. Il y a eu une déclaration de sinistre. Enfin, l'expert est venu et a trouvé que le mur était quand même très vieux, donc il y a une partie qui est à la charge de la commune. Ça s'appelle de la vétusté. Merci.
Aujourd'hui, les assurances ne vont pas payer un mur neuf
Le mur qui a été endommagé avait un dépôt d'entretien.
Voilà, c'est normal. C'est normal. Voilà, donc écoutez, là il n'y a pas de vote, hein, c'était juste une information. On va passer aux questions diverses. Je ne sais pas s'il y en a. Moi j'en ai deux. La première, les communes de plus de 2000 habitants ont la nécessité de d'écrire un règlement intérieur qui régit les relations dans le conseil municipal, notamment entre la minorité et la majorité, la place de chacun, les temps de parole, les choses comme ça. Donc on n'y a pas encore vraiment réfléchi. On a 6 mois pour le faire, donc ça va commencer à devenir urgent. Donc je vous proposerai bien qu'on fasse un petit groupe pour travailler là-dessus, et je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un de vous quatre, avec vous nous direz qui, je vous ferai passer là. Tu viendras ? Ok, Sylvain.
Merci. Oui, moi je vous fais une proposition. Il y a quand même des modèles qui existent, il y en a 2-3. Donc je vous propose que je vous en soumette un, bien sûr, qui pourra être amendé, qui pourra être revu, certaines choses supprimées, d'autres ajoutées, etc. Mais au moins on aura une base de départ qui nous évitera de chercher d'un côté, de l'autre et de perdre du temps. Voilà.
Je pense que c'est quand même l'occasion de réfléchir au... Peut-être qu'il ne faut pas trop trier avant, il faut peut-être en prendre plusieurs modèles pour dire ben ça c'est plutôt intéressant, ça c'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est l'occasion d'une vraie réflexion sur la manière dont on a envie de travailler les uns avec les autres. Voilà.
C'est ouvert. Il n'y a pas question de. Voilà.
Qui veut parler des HLM ? Peut-être toi, Magali, parce que. Je pose une question diverse.
Bien, nous sommes en lien avec DH, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, à plusieurs d'entre nous, pour à la fois envisager la date de la livraison des moulinages et puis le devenir des bâtiments en rouge. Et ils seront vraisemblablement amenés à être détruits prochainement. Tout ça est très encadré. On a énormément échangé avec le bailleur social pour comprendre la façon dont ça allait se passer. Et puis le temps que ça prendrait entre le moment où le premier locataire sera d'accord pour partir et puis le moment où ce sera le départ du dernier, il faut à peu près un an et tout ça sera un moment un peu intense et on sera très présent, mais les bailleurs aussi. Les frais de déménagement seront intégralement pris en compte ainsi que les frais de branchement électrique, wifi, etc. pour que ce soit une opération tout à fait blanche pour les locataires actuels des bâtiments rouges qui seront tous, sans exception, prioritaires sur leur demande, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire s'ils veulent aller dans les bâtiments à côté, donc les 3 qui resteront, ou les moulinages, ou même en profiter pour changer de vie. Voilà, je... Ah, Marc. Oui,
peut-être donner une petite précision sur le contenu du projet.
Oui, si tu veux. Je ne voulais pas m'éterniser, mais
Tu voulais faire également ?
Non, vas-y, c'est bien.
Oui, ces deux bâtiments rouges vont être démolis, alors on s'est fait... On a demandé, parce qu'on nous explique pourquoi ils vont être démolis. D'abord, c'est un terrain privé. DH est propriétaire de ces bâtiments. Après tout, on n'a pas beaucoup de raisons de s'y opposer, mais enfin, on avait envie d'avoir des arguments. Effectivement, les arguments économiques, techniques, sur la suppression de la démolition de ces bâtiments étaient assez solides. Ils se sont engagés pour réhabiliter les 3 autres immeubles qui restent, là, les 3 qui sont disposés un petit peu plus carrés, là, qui sont disposés un petit peu au-dessus. Donc ceux-là vont être réhabilités énergétiquement avec de l'isolation par l'extérieur, de l'isolation en toiture et des balcons. Donc qui seront rapportés.
Plus installation d'ascenseurs.
Voilà, installation d'ascenseurs, accessibilité.
Et ils refont les salles de bain.
Voilà, ils refont complètement l'agencement intérieur des appartements. Et donc, à la place des 2 bâtiments rouges démolis, seront... alors, eux, ils avaient projeté de faire des petites villas à la location ou en accession à la propriété. Ils n'étaient pas encore forcément fixés. Nous, on a demandé à ce que ça soit quand même, comme le lieu est intéressant du point de vue de l'habitation, et que nous, on est toujours On pense que plutôt que d'occuper des vastes terrains en dehors, il vaut mieux densifier sur les zones qui sont déjà construites. Donc on a insisté pour faire plutôt du logement intermédiaire, c'est-à-dire qui se situe entre l'individuel et le collectif, ce qu'on appelle le logement intermédiaire, du semi-collectif, c'est-à-dire que les maisons sont plus serrées, mais où on peut quand même avoir un petit bout de jardin. Donc pour faire plus de logements que ce qui était prévu dans leur projet. Donc ils nous ont écoutés, ils ont dit qu'a priori, oui, pourquoi pas. On a discuté pendant quelques heures avec DAH et l'architecte qui est chargé du projet. Donc on veille un petit peu au grain là-dessus. Donc voilà, pour que le projet, évidemment, les projets soient prévus aux normes d'isolation, non pas 2012, mais d'anticiper, et que ce soit déjà des bâtiments à énergie positive. Ceux qui ne leur a pas posé de problème, on dit oui, pourquoi pas, de toute façon, d'ici que ça se fasse, le projet, donc on partira sur de l'énergie, des bâtiments à énergie positive. Voilà, si vous voulez d'autres précisions un petit peu sur le projet, bon, enfin voilà, en grande ligne, ce qui compte faire.
Fini, hein ? Je peux y aller ? Bon. J'ai trois petits points à exposer en ce qui concerne la santé et la solidarité. Tout d'abord, une information, nous sommes en cours de pourparlers avec la Croix-Rouge pour voir dans quelle mesure on pourra avoir une expérience d'une épicerie solidaire qui serait installée à Dieulefit. Par ailleurs, on remet à plat le registre communal des personnes vulnérables et vous verrez apparaître dans les journaux un appel, justement, ainsi que sur le panneau. N'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui sont isolées, généralement pour elles, parce que si elles sont isolées, elles ont sans doute de grandes difficultés à s'inscrire, n'hésitez pas à leur proposer donc d'être inscrites sur ce registre communal des personnes vulnérables. C'est un registre qui nous permet ensuite, en cas de pandémie, en cas de grosse chaleur, en cas de catastrophe, etc., de contacter les gens à domicile et de leur demander si tout va bien. Voilà. Enfin, un troisième point, c'est que nous tentons du côté de la solidarité arriver des jours qui seront peut-être pour certains pas très faciles, surtout sur le plan financier, après avoir peut-être perdu son activité, etc. Et donc nous envisageons de faire, comme nous l'avons fait pour les commerçants, de faire une liste des associations dieulefitoises locales qui peuvent recueillir des dons et donc de faire un appel à cette solidarité locale. Et enfin, un dernier point. Je regrette un peu qu'il soit dans les divers, parce que pour moi c'est pas quelque chose de divers, mais un petit point quand même sur la situation sanitaire à Dieulefit. La situation sanitaire, ben, il faut l'examiner essentiellement à travers nos deux EHPAD. L'EHPAD de l'hôpital quand même a vu démarrer une situation qui s'est amplifiée au jour le jour. Il y a quand même plus de la moitié des gens, plus une partie du personnel qui ont été atteints. Et donc, finalement, il a été décidé à la fin de la semaine précédente de déplacer les médecins. Ils sont partis du principe qu'il y avait sans doute dans les personnes qui avaient la Covid, qu'il y en avait peut-être deux ou trois qui étaient plus particulièrement aptes à faire diffuser la Covid. Et donc, ils ont pris la décision de regrouper tous les gens qui étaient malheureusement atteints au premier étage et de mettre les autres au rez-de-chaussée. Ce qui permet d'ailleurs à ceux qui ne sont pas atteints, et dont on espère bien qu'ils ne seront pas atteints à leur tour, de pouvoir disposer des locaux et de pouvoir circuler dans les locaux et sans doute de pouvoir refaire assez rapidement les visites. Voilà, en ce qui concerne l'hôpital. En ce qui concerne les Géchirou, la situation, là aussi, il y a eu des cas, elle est pour le moment stabilisée et demain, ils feront une nouvelle campagne de tests. La visite des familles a pu reprendre, mais dans des conditions, vous le comprenez très bien, très, très restrictives. Hein, voilà. Par ailleurs, je tenais à faire à l'occasion de rendre un peu un hommage à tous ces cadres, ces personnels médicaux, ces personnels paramédicaux qui s'investissent au quotidien pour sécuriser les résidents, malgré une pénurie d'agents touchés en eux-mêmes par la maladie. Ces agents font tous preuve d'une très grande professionnalisation et dans un contexte difficile, une tension très difficile pour les résidents et les agents. Si je fais cette petite remarque, c'est que vous avez peut-être vu qu'il y a eu dans les journaux des articles qui faisaient état de certaines choses. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais je pense que c'est le moment ou jamais de rendre quand même un certain hommage à ces gens qui s'investissent. Et croyez-moi, il y a du boulot. Hein. Alors sur le Dieulfi lui-même, ouais, sur Dieulfi, bah, vous le savez très bien, les cas sont quand même nombreux. Mais sauf cas particulier, apparemment, il ne semble pas être très grave. Et je terminerai par un dernier appel. Vous avez peut-être vu sur le site de l'Amérique que le corps médical a lancé un appel, un encouragement à ce que tout le monde respecte bien quand même les consignes. Et je pense que nous, élus, nous nous associons à cet appel. Il faut regarder la réalité en face. Et ce n'est pas de regarder la réalité en face qui va nous stresser. Au contraire, il faut se mobiliser pour qu'on fasse face à cette réalité. Voilà.
Oui. Dieulfi Santé, c'est pour moi ? Non, c'est pas de nouvelles. Pas de nouvelles.
On n'a pas de nouvelles, sinon qu'apparemment, autant que je me souviens, ils ont reculé leur CA. Hein ? Voilà, ils ont reculé leur CA, ils l'ont décalé, compte tenu. Voilà.
Oui, juste deux petites remarques. On est capable de dire quand ça va pas, mais on est aussi capable de dire quand ça va bien ou quand ça va. Sachez qu'on a apprécié de vous rencontrer, enfin, de rencontrer certains d'entre vous, vendredi pour préparer ce conseil municipal. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut que l'on continue à faire, enfin, c'est ce que l'on espérerait forcément, et ça évite quand même pas mal de choses, et au moins on est au courant de certaines choses, et c'est très bien. Donc voilà la note positive. Après j'en ai une toute petite négative, je suis obligé de la dire quand même. Non, tout ça, pour équilibrer. Tout simplement, il faudrait que vous bossiez, parce qu'a priori, c'était quand même votre force, sur la communication interne. Quand je dis interne, c'est avec nous, c'est entre vous et avec nous. C'est-à-dire que j'ai été surpris d'apprendre l'embauche d'Isabelle Donia par un courrier qu'elle m'a envoyé. Nous sommes quand même élus, je pensais qu'on pourrait quand même savoir de façon un petit peu plus... c'est pas sérieuse, mais connaître au moins l'embauche d'un personnel sur la mairie, je pense que c'est quand même important. Donc ça, c'est ma première requête. Et la seconde, on nous pose des questions quand même à Dieulfi. Il y a des gens qui forcément nous soutiennent, ou nous aiment bien, ou peu importe. Et on est au courant de pas grand-chose finalement. Si on ne vient pas à cette réunion de préparation de conseil, si on ne vient pas forcément au conseil, on ne sait pas trop ce qui se passe. Parce qu'en fait, on n'a pas de compte-rendu de commission. Moi, en tant qu'ancien élu, on travaillait sous forme de commission, après ça c'est un choix. Il y avait des comptes rendus qui étaient lisibles de tous, chose que l'on n'a pas maintenant. On apprend plein de choses, mais on aimerait les apprendre peut-être de façon différente. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez au sein de vos commissions, de vos gars, mais il serait important malgré tout que l'on sache un petit peu ce qui se fait, ce qui se dit. Et, voilà. Et puis si on peut y participer, forcément ce sera avec plaisir. Voilà.
Imaginez une Dropbox communale ou enfin sans l'idée d'envoyer, mais qu'on ait oui voilà, chaque commission nourrit par des comptes rendus. Après c'est pas dire d'envoyer, on va les chercher, on a des clés d'accès, voilà. Mais on sait pas où aller les chercher. C'est un click and collect. Si, je vais juste rajouter quelque chose. Je trouve dommage dans cette période justement de crise sanitaire où on se pose plein de questions. Bon, Jacques a fait un compte rendu très intéressant. Dans ce conseil municipal, il y avait trois experts de santé et ils sont tous démissionnaires. Alors, je trouve ça dommage.
Oui, je suis d'accord. Oui. Il nous reste Paulette et Valérie, donc. On n'est pas complètement démunis, mais c'est vrai que...
Non, une expertise...
Est-ce que vous avez d'autres questions diverses ? Ça Ça va? C'est tout bon? On ne laisse pas la parole au public, à moins que Gisèle ait vraiment envie de nous dire quelque chose, qu'elle a réfléchi à un petit discours. Et je trouve qu'on a été un petit peu juste dans nos applaudissements, donc je vous propose de recommencer pour lui.